Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rose, petit génie.
Dans cet épisode de la Quinterview.
Ah, mais moi ?
Ouais.
Ah non, mais attends. Ah non, mais pas des nades à la pluie, hein. Je suis pas le couteau le moins aiguisé du tiroir. Hein.
Ou le pingouin qui glisse le moins loin.
Ou... Allez, Mia, encore une petite question, non ?
La Quinterview.
Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui s'est trouvée à travers la comédie et la magie. Étonnant, n'est-ce pas ? Imitatrice de talent, humoriste dans l'âme, un des membres du meilleur duo de Paris. C'est la plus grosse des pétales du podcast et qui s'y frotte, si... Bienvenue pour ta Quinterview, Rose.
Mais merci, quel accueil.
Merci à toi de m'accueillir chez toi pour accueillir le podcast.
Oh, mais avec grand plaisir. Le public est en délire. Hein. Oh, arrêtez. Non. Arrêtez. Même ma mère est venue. Non.
Bah ouais, le c'est public incroyable. Était vraiment en délire.
La magie du 21e siècle me dépassera toujours. Hein.
Rose.
Oui.
On va parler ensemble pendant un petit moment. Et déjà, je voulais savoir, avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi.
Du coup, quand tu parles à Rose, tu peux me genrer plutôt au féminin. Et puis à Guillaume, puisque sous Rose, il y a Guillaume. J'ai essayé de prendre une voix plus grave, ça n'a pas du tout marché.
Sous Rose, il y a qui ?
Il y a Guillaume. J'ai pris une voix plus grave et plus beauf. Non, c'est terrible. Donc sous Rose, il y a Guillaume que tu peux genrer au masculin. Voilà. Mais je ne t'en tiendrai pas rigueur si tu te trompes à un moment donné, parce que même moi, des fois, je me trompe.
Du coup, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview ?
Je suis prêt pour ma Quinterview.
Dans un premier temps, avant de parler avec Rose, je voulais m'adresser à Guillaume. Où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines ?
J'ai grandi. Je suis née à Châtenay-Malabry. Mais j'ai grandi à L'Haÿ-les-Roses, qui est une ville, j'allais presque dire un village, mais c'est quand même une ville. Et dans le 94, le Val-de-Marne, Sissi représente.
9-4.
9-4 en force, rien que des ouf.
Et, rien que des ouf.
Oui, rien que des ouf, je peux te l'assurer.
C'est prouvé.
Oui, absolument. c'était une étude IFOP qui... Enfin bon. J'ai grandi là-bas parce que j'ai quand même vécu 24 ans. Voilà. Et à mes 24 ans, je suis partie sur Paris.
Ok.
Ouais.
C'était comment de grandir dans le 94? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? T'as des frères, des sœurs, tout ça?
Mon père est kinésithérapeute et ma mère est professeure de coiffure.
Prof de coiffure?
Ma mère, prof de coiffure, ouais.
Incroyable.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, les têtes à coiffer, tout ça?
Mes têtes à coiffer, absolument. C'est elle qui m'a offert ma première perruque.
C'est trop mignon.
Ouais, en vrai cheveux. Non, d'ailleurs, pas du tout. Je pense que je croyais à l'époque que c'était du vrai cheveu. C'était très bien fait. Peut-être que c'était... je sais pas. Mais en tout cas, ma première perruque.
La légende dirait que c'était les vrais cheveux.
Ouais, voilà. Bon, on gardera que ça. C'est mieux. Mais en revanche, tu parlais de tête à coiffer. Ça a débloqué en moi
un souvenir
parce que ma mère m'a aussi offert une tête à coiffer. Et je revois très bien ce moment où je suis dans ma chambre et j'entends un bruit. Et en fait, je vois une tête à coiffer qui passe. Et c'est ma mère qui passait la tête pour me dire « je t'ai offert une tête à coiffer ». Et je sais pas pourquoi ça est resté. Je pense que c'est un peu glauque de voir une tête coupée comme ça.
Bah, les têtes à coiffer, c'est jamais
non.
Beau. C'est un peu flippant.
Ouais.
Parce qu'elles sont un peu maquillées, elles ont un peu une humeur, elles ont un peu un petit truc un peu coucou, je sais que tu me coiffes.
Exactement. Et puis pas de corps quand même. Hein. Donc bon.
C'est vrai quand même pas de corps.
Ouais.
Ok. Et donc toi, t'as jamais voulu faire tête à coiffer en grandissant ou je sais pas, travailler dans la coiffure,
Si, ben, oui, en un moment donné, moi j'ai fait des études longues puisque j'ai un master en psychologie. Et j'adore dire ça, ça fait très imposant, je trouve. Moi, j'ai un master en psychologie.
Bah, là, t'as posé une ambiance.
Ouais, ouais, je pense qu'on a perdu quelques auditeurs.
Désolé.
Et auditrices. Donc j'ai fait des études longues, et à un moment donné, mais assez rapidement, en fait, je pense, la deuxième année de mes études, grand questionnement. Je me suis dit, mais attends, je pars sur 5 ans, et en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et donc, discussion avec une de mes profs. Et là, je lui dis, ma mère est coiffeuse. Et en fait, elle est coiffeuse. Elle a été coiffeuse. Elle a été prof de coiffure. Et je lui dis, en fait, ça, c'est des études rapides. Elle me dit, c'est génial. T'as qu'à faire psychologue et coiffeur. Et t'appelleras ça psycho-coiffe. Et ça m'a calmée. Je me suis dit, non. Puis après, j'ai eu des vacances et ça m'a aussi reposé.
Je comprends. Parfois, les vacances, ça peut résoudre plein de choses.
Ah oui, là oui.
Mais psycho-coiffe, c'est un Pokémon.
Oui, c'est vrai.
Quoique, est-ce que toi, en tant que psy émérite et diplômé, aller chez le coiffeur, c'est aussi un peu aller chez le psy?
Ah mais complètement. Ma coiffeuse et personne phénoménale qui s'appelle Eva Guide, qui a un salon de coiffure qui s'appelle Amour Cheveux Club. Courez-y, c'est incroyable. J'en parlais avec elle il n'y a pas très longtemps, ça fait je ne sais pas combien de dizaines d'années qu'elle coiffe. Et je lui disais, mais en fait c'est drôle parce que le métier de coiffeuse a toujours été sous-évalué et très mal vu. En fait, c'est vraiment un métier un peu... Enfin bref, qui a passé l'être de noblesse. Alors qu'en réalité, c'est un métier extrêmement dur physiquement. Déjà, parce que t'es quand même toute la journée plus ou moins debout, à tourner autour d'un client, à se mettre dans des positions terribles quand tu dois coiffer. Enfin bref, c'est une horreur. Et en plus de ça, tu dois tenir la discussion avec ton ou ta cliente, alors que t'as pas forcément envie, parce que toi aussi t'as des jours sans. Hein. Et tu dois subir parfois des discussions qu'on t'impose. La fameuse question, ça va? Parfois on te répond, non, parce qu'en fait, hier, j'ai perdu machin. Et là, t'es, il va falloir que je me coltine un truc qui peut-être, chez moi, ramène des trucs. Moi, c'était mon métier, psychologue. Mais quand t'es coiffeur, coiffeuse, t'as pas choisi ce truc-là.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers comme ça qui sont pas forcément... Enfin, qui sont en contact avec du public, de différentes manières, dans différentes situations, mais on n'est pas forcément armé à pouvoir recevoir toutes les informations, toutes les discussions, tous les sujets. Parfois, on est là, on fait « Ah oui, bon, c'est peut-être un peu trop ».
Je sens que ça résonne un peu en toi, non?
Mais bien sûr. Il y a plein de choses où tu te dis « Ah, en fait, ce serait bien de pas pouvoir avoir la possibilité, l'opportunité d'en discuter avec quelqu'un. » T'étais quel genre de petit garçon? T'étais comment, le petit Guillaume?
Le petit Guillaume Le petit Guillaume était un enfant... moi, j'étais très solitaire pendant très longtemps, quand même, puisque j'étais enfant unique jusqu'à mes 12 ans. Et ça me plaisait énormément. Même aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup avoir mes moments vraiment de solitude. Ça ne me dérange pas, j'ai pas du tout peur de ça. Et je m'ennuie pas, enfin, je peux être seule avec moi-même, il n'y a pas de problème. Et donc, quand j'étais petit, j'étais souvent seule avec moi-même. Et je pense que je le voulais aussi, je cherchais ces moments-là, parce que j'avais mon imaginaire qui s'ouvrait. Et je m'inventais vraiment des histoires, vraiment un monde, etc. Aussi en fonction de l'actualité. Quand il y a eu Harry Potter qui est arrivé en force, j'ai joué à Harry Potter, mais avec moi-même. C'est-à-dire que je m'inventais vraiment le fait que j'avais reçu une lettre de Dumbledore.
Incroyable.
Qui m'invitait à aller à Poudlard. Mais que j'étais pas un sorcier comme les autres, évidemment.
Bah non, mais bien sûr que non.
J'avais plus de pouvoir et du coup j'étais un peu exceptionnel, donc il allait falloir que je me prépare à ça aussi. J'avais vraiment une baguette magique que j'avais ramassée, je sais pas, dans un bois un jour, que j'avais poncée, etc. Un jour, d'ailleurs, ma mère a cassé ma baguette magique en me tapant avec parce que je faisais un peu le bordel dans la voiture. Je me souviens très bien de ce moment. Et elle l'a prise et elle m'a tapé, mais pas fort, c'est une petite baguette de rien. Elle m'a tapé avec, la baguette s'est cassée. Donc je suis passée de la baguette d'un sorcier extraordinaire à celle de Ron. J'ai dû mettre du scotch, j'ai dû la coller avec de la super glue, mais je crois que plus jamais elle a été la même.
Oh non.
Et j'ai encore cette baguette.
Mais enfin, c'est-à-dire que vraiment, dès tout petit, tu t'es dit en fait, je suis un magicien, je suis un sorcier.
Oui, mais parce que j'adorais la magie. Et je voulais devenir magicien, alors prestidigitateur, quand j'étais vraiment tout petit, hein, je pense, oui, très 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 petit. Mon père m'emmenait régulièrement dans une boutique à Paris pour acheter des accessoires de magie. Et en fait, assez rapidement, je me suis d'ailleurs rendu compte que j'étais très nul. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout doué de mes mains. Donc quand il fallait faire ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire vraiment où t'es sur une table avec tes invités qui sont là face à toi et à qui tu dois faire des tours de passe-passe, ben en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. On voyait tout ce qui se passait. Et donc voilà, je sais pas, la boule qui disparaît sous je sais pas quoi ou qui se transforme en carré, mais en fait, tout le monde voyait tout. Puis ça foirait une fois sur deux parce que ça tombait de ma poche. Enfin, rien ne marchait. Et en fait, les gens riaient. Et à l'époque, je n'avais pas pris ça de manière positive. Je ne m'étais pas dit, c'est cool en fait, je fais rire les gens en faisant... aujourd'hui, c'est cool de pouvoir faire ça en fait.
C'est quand même très marrant d'avoir, du coup, tu as découvert ce truc-là et tu t'es dit, c'est à moi. C'est un prolongement un peu de moi-même. C'est mon truc, la magie.
Mais oui, mais alors en fait, je crois aussi qu'à une époque, c'était un peu une mode. Parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes et toi-même, je crois que si vous voulez.
Ouais,
c'est ça. Hein,
oui, j'avais le FP.
T'avais le FP.
C'est un truc, c'est un code entre ouais, les magiciens. Donc ceux qui.
C'est les vrais sages.
Bah ouais, les sorciers ou les magiciens, le FP, ça vous parle.
Ouais, le FP, ouais.
Envoyer des MP.
Pour parler des FP. Donc effectivement, c'était une mode. Et je me souviens à la télé, on voyait Sylvain Mirouf, par exemple. Pardon, mais ça m'a fait rire de pouvoir sortir ce mot comme ça.
Mais en fait, il a disparu.
Oui, tour de magie.
Il est rentré
hein,
dans une boîte et puis poum. Et Sylvain Mirouf.
Ah, mais complètement. Ouais. Non, mais en vrai, il a complètement disparu qu'à une époque.
Où est-il? Que fait-il? Est-ce qu'il a Insta?
Il avait ses propres cassettes. J'avais la collection que t'allais acheter chez Marchand de Journaux, le numéro 1, le FP, et le fascicule et la cassette. Et ça s'appelait J'aime la magie.
Alors, Mirouf officiel.
Ouais. À base d'or, tu vois.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est la baseline.
Bah, bien sûr.
Et ils vendent des t-shirts au Mont Bateau. Je comprends pas.
Mais c'est une époque. Et donc, il y avait Sylvain Mirouf dans le plus
David
grand cabaret du monde.
David Copperfield.
Je suis allé le voir au Zénith avec mon père. Et c'était incroyable. Pour moi, c'était la star des stars, David Copperfield. Et donc, oui, je crois que c'était une mode qui m'a entraîné vraiment assez jeune à aimer la magie, à rentrer dans ce monde.
Mais c'était que de la magie ou t'as basculé sorcellerie?
Alors, c'était de la magie au départ. Et à un moment donné, ça a mal tourné. Et je me suis dit, en fait, c'est bien sympa la magie, mais il y a des trucs. Et moi, je m'intéressais à la vraie magie où il n'y a pas de trucs. Mmh. On ne les connaît pas, les trucs, en tout cas. Et donc, j'ai basculé vers la sorcellerie. Sauf que je ne suis pas passée à la pratique. C'est un peu compliqué, mais à la base, mon objectif, c'était très R&D. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la sorcellerie existe encore aujourd'hui alors qu'on n'a pas été foutus de prouver scientifiquement que ça existe? Donc j'avais lu mes tonnes de bouquins, j'avais acheté des grimoires. Dans ces bouquins, en fait, genre, j'ai un livre qui s'appelle « La sorcellerie en France aujourd'hui ». Et c'est vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire, ça prouve qu'en Bretagne notamment, et dans la Vienne, dans des endroits où la sorcellerie était très présente à l'époque, aujourd'hui encore, elle est pratiquée. Et on retrouve régulièrement régulièrement, je ne sais pas, ça j'invente. Mais on retrouve, en tout cas, on a retrouvé des cœurs d'animaux percés d'épines, parce que c'est un rituel de sorcellerie pour pouvoir tuer le bétail du voisin, enfin, tu vois, qui est pratiqué encore aujourd'hui. On cloue encore parfois des chouettes sur des portes.
Ok.
Parce que ça amène, je sais pas, l'abondance, ou ça protège du mauvais œil, enfin, des trucs un peu comme ça. Et c'est assez fou, en fait.
Mais tu clouais des chouettes à des portes ?
Non, je suis pas allée jusque... Je pense que si mes parents m'avaient pas arrêté, j'aurais pu aller jusque-là. Mais non, de mémoire, j'ai rien fait de vraiment très dangereux, hormis... je commençais un peu à jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'il y avait des... Il y avait des rituels, tu sais, à base de... faites brûler de l'encens, faites brûler tel truc, tel machin. Et j'ai fait brûler plus de choses qu'il n'en fallait sûrement.
T'étais Baptiste.
Oui, j'étais un peu... j'étais un peu Baptiste.
Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre.
Et alors ?
T'éteins !
C'est bon, ça t'éteint juste avec un bol.
Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net,
mais non, je fais un truc.
Non, 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 t'arrêtes ça, Baptiste ! Mais c'est quoi que t'as mis par terre ?
C'est du sable.
Mais t'es pas net, non ?
Il tient du sable. Bah, c'est. Bah, voilà. Bah, c'est. J'étais un peu Baptiste. C'est très mal de se moquer. Mais non, c'est très mal, mais.
Oui, mais.
Mais on l'a fait avant moi.
Oui. Puis on n'est pas en train de se moquer de Baptiste.
Non, c'est
en plus, Baptiste a fait une vidéo combinée pour expliquer qu'il était sous médicaments et que voilà, c'était. Ah, oui, non, mais il y a un truc. Ouais.
Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ok.
Non, ouais, non, c'était un. Des effets de médicaments, bref.
Non, mais en plus, moi, quand j'ai vu cette vidéo de Baptiste, bah, ça m'a parlé.
Oui,
j'ai
eu
de la compassion. En me disant, bah, moi aussi, ma mère est arrivée dans ma chambre et m'a dit, là, c'est fini, faut arrêter parce que ça pue. Il y a eu ces moments où ça puait, parce que tu brûles des trucs qui ne doivent pas être brûlés. Et voilà, donc c'est là où je pense, bon, je me suis dit, allez, on va arrêter.
Oh, incroyable. Et donc, tu étais ouais, en R&D, quoi, à rechercher, à créer tes propres tours et enfin tes propres sorts. T'as jeté des sorts ?
Est-ce que j'ai jeté des sorts ? En vrai, j'ai reproduit, je pense, des choses que j'avais pu trouver dans des livres qui parlaient de sorcellerie. Après, c'était l'époque du collège, je me suis dit, tiens, là j'ai acquis un peu de connaissances, bah, est-ce que directement je ne deviendrais pas prof ? De sorcellerie.
Bah évidemment, à 13 ans.
Bah oui. Et puis bon, j'avais reçu ma lettre de Poudlard, mais j'y étais toujours pas. Donc j'allais créer ma propre école, finalement.
Mais t'as donné des cours de magie ?
J'ai donné des cours de magie, absolument. Mais je l'ai donné à distance, c'était en distanciel.
Un peu Academia, mais de la magie.
Exactement. Complètement Academia. Vous pouvez peut-être retrouver la pub dans les métros prochainement, d'ailleurs. Mais il y avait, je pense, 3 ou 4 élèves que j'avais dû forcer d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment. Un charisme peut-être naturel, comme j'ai encore aujourd'hui. Non, mais en tout cas, ces 3-4 élèves étaient donc forcés de recevoir mes cours, que je tenais vraiment bien, hein. C'était très très bien fait. Et bon, ils les apprenaient normalement. Et ensuite, ils avaient une interrogation, qui était aussi faite en distanciel, donc évidemment qu'ils pouvaient tricher.
Et ça te prenait du temps, j'imagine, de préparer tout ça.
Ça me prenait du temps, mais je pense que j'en avais au collège quand même. Moi et ma solitude, on avait du temps. Non, et en plus de ça, alors pour la petite anecdote quand même, parmi ces élèves, j'avais Pounani. Puisqu'on se connaissait au collège. Et Pounani n'a pas triché pour faire son interrogation. Voilà, je le dis, je m'en souviens. Et elle m'avait dit, je n'ai pas triché pour faire mon interrogation. Et effectivement, vu sa note, elle n'avait pas triché pour faire son interrogation.
C'est une très mauvaise note.
C'était pas si mauvais, mais c'était pas non plus extraordinaire.
Oh, tu t'en... Wow, c'est incroyable.
Ouais.
Tu les as encore, tes cours ou t'es...
Oui, mais alors malheureusement pas ici, mais oui, bien sûr. Je garde tout. Quasiment tout. En tout cas, les choses où je me dis ça plus tard, c'est pépite.
Ah bah, ça, c'est pépite. Donc, tu parlais de Pounani. Donc, Pounani, c'est donc ton associé du drag.
Oui.
La compagnie Rose et Pounani. Non, mais tu parlais de Pounani, donc, qui est aussi Jules en civil, et vous vous êtes rencontrés donc, au collège. Comment vous vous êtes rencontrés et comment ça a connecté entre vous ?
Eh bien... Moi, je dirais que le début de la rencontre, peut-être que Pounani démentera ça, mais c'est un peu flou. Mais en tout cas, je crois que le début de la rencontre, ça a été un exposé qu'on avait à faire sur le théâtre romain. C'était le thème, c'était en cours de français et on avait choisi donc de prendre ce sujet-là. Et on était 3 donc, à faire cet exposé et on était allés donc, chez Pounani, chez Jules, pour préparer l'exposé, etc. Sa mère, qui est artiste, nous avait créé un mini théâtre romain avec les rideaux qui s'ouvraient avec un petit mécanisme. Vraiment, c'était incroyablement bien fait. Et puis, on avait donc écrit, évidemment, l'exposé. Je me souviens qu'à la fin, on avait même fait un quiz. Et ça, je ne sais pas si je l'ai fantasmé ou si on l'a vraiment fait. Mais il me semble qu'on s'était dit, tiens, mais au moment du quiz, on va l'annoncer comme si on était au théâtre, en faisant un truc un peu a cappella, en faisant « quiz, quiz, quiz ». Mais je pense qu'on s'est dit « non, on va faire trop pitié », parce qu'on était quand même en sixième, donc on faisait déjà pitié. Et je crois que je l'ai plutôt fantasmé. Mais en tout cas, on a fait cet exposé sur le théâtre romain. Mais pour aller plus loin dans la chose, on s'est dit « bah, venons habiller en toge ».
Incroyable.
Oui. Donc nos toges étaient des draps qu'on avait vraiment enroulés autour de nous. Voilà, on avait aussi fait des masques romains. Et puis on avait présenté notre exposé dans cet accoutrement. La prof avait été enchantée. On avait sûrement dû avoir une très bonne note. Elle nous avait dit, revenez demain, habillés de la même façon, je vous prendrai en photo. Et donc, j'ai les photos. J'ai une photo, il y avait trois photos. Et Pounani, d'ailleurs, se plaint régulièrement d'avoir eu la plus laide.
Et du coup, donc avant, vous n'y avez jamais trop fait attention l'un à l'autre. Et là, à ce moment-là, d'un coup, il y a un truc qui se crée. Et donc, c'est dès cet exposé ou c'est au fur et à mesure du temps
Je ne me souviens pas avoir déjà joué avec Jules, lui avoir adressé la parole, etc. Alors qu'on a été très nombreuses fois dans la même classe, hein, que ce soit en maternelle ou en primaire.
Ok.
Mais non, Jules, par contre, me dit que... Enfin, il n'y a pas très longtemps, on a eu un souvenir un peu commun. Il y avait... Jules jouait beaucoup avec les gendarmes, tu sais, ces petits insectes-là. Ouais. Et il leur construisait des petites cabanes avec une amie à lui. Et au moment où Jules me raconte ça, je dis bah, « c'est drôle parce que moi, je me souviens qu'avec mon ami, on passait notre cours de récré à détruire des petites cabanes. » Et là, on a compris qu'en fait, ça avait été notre première interaction. Un peu tragique.
Des personnes odieuses.
Exactement. J'étais une personne odieuse. Non mais enfin, cette cabane n'avait rien à faire là, sur mon chemin. Et les gendarmes n'ont pas besoin d'abri, je rêve.
Non, mais on croit rêver. Très bien. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un stage qui a aussi marqué, encore plus consolidé, comme un pont avec des fondations et une structure Eiffel? C'est très très loin. C'est très très long pour dire, en gros, vous avez fait un stage ensemble?
Non. oui, absolument. Je crois que tu veux parler du stage des Cétons.
Exactement.
Les Cétons, qui est un magnifique centre d'activité en extérieur, hein, le lac des Cétons qui est situé dans la Nièvre, dans le Morvan. Et nous, ça avait été notre première classe verte en commun avec Jules. Donc on est parti là-bas et on nous a dit, je sais pas pourquoi, on multipliait déjà les projets un peu casse-gueule à l'époque. Hein. Et on nous dit, bah écoutez, voilà, il va falloir composer une petite chanson, pourquoi pas, pour cette classe verte, un hymne.
Je crois que ça dépend du contexte de la phrase.
Il va falloir composer l'hymne du stage des Cétons.
Ouais.
Et donc, qu'à cela ne tienne, eh bien, ce sera Jules et moi qui allons l'écrire.
Pour tout le monde ?
Pour tout le monde. On allait forcer les gens. Mais en même temps, je crois que personne ne voulait vraiment le faire. Et qu'on s'est dit, c'est d'accord.
Et alors, ça donnait quoi, cette chanson ?
Eh bien, donc, ça s'appelle « Au stage des Cétons ». C'est sur l'air des Champs-Élysées de Joe Dassin. Et c'est une très belle chanson qui rime avec des paroles profondes.
Je t'écoute.
Tu veux que je la chante ?
Oui, s'il te plaît.
Au stage des Cétons, pa-da-pa-da-ta. Au stage des Cétons, pa-da-ta-da-ta. En kayak, en vélo, en CO ou en bateau, on a fait plein d'activités au stage des Cétons. C'est pas ça. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la fin. Je me suis trompée.
On a fait plein d'activités au stage des Cétons. T'es pas sûre?
C'est pas exactement ça.
C'est quoi en CO?
Course d'orientation.
Ah, ok.
Ouais. Tu connais le FP, mais pas le CO?
Je suis pas très très bon en acronyme ou en... Ouais. C'était un succès.
Ça a été.
Du coup, Joe Dassin l'a reprise.
Complètement. Ah, mais Joe Dassin s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, mais bien sûr. Il a repartagé sur Instagram. Dingue.
Et alors là, on a buzzé.
Ah non, mais incroyable. Et finalement, bah, Jacques Chirac à l'époque s'est dit, Mais est-ce qu'on remplacerait pas
la Marseillaise, par le stage des Sétons? Mais complètement. Si, et voilà, et c'est le début de Rose et Pounani.
Exactement. Ah non, mais c'est fou, hein, tu vois, mais des petites histoires comme ça. Hein.
Et on vous connaît.
ASMR.
C'est, ouais, c'est vrai. Il y a des espèces de... Alors ouais, on a pris des choses à grignoter. On fera pas pour ceux qui sont misophobes.
Misophobes, ouais, t'as raison. Ouais.
On grignotera pas dans vos oreilles. Non. Mais on mange des choses incroyables. Enfin, on n'est pas sûr, absolument fabuleuses non plus. On va pas raconter notre vie, ni notre digestion.
Bien envoyer ma puce.
Je le montrerai pas, je pense.
Franchement, ça le ferait rire, en vrai.
Bref... Et avec Jules, qu'est-ce que vous faisiez, du coup, après avoir composé cette formidable chanson? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites les mercredis?
Oui, bah, c'est là, tu vois, où je me dis que vraiment, on n'avait pas des activités comme les autres, parce que quand d'autres se retrouvaient sûrement pour, je sais pas, aller jouer dans un parc, etc., nous, notre activité, c'était de faire des films. Parce que Jules, à l'époque, voulait devenir réalisateur, et moi, je voulais devenir acteur. Donc ça tombait bien, puisque j'étais la seule personne qui acceptait de jouer dans les films de Jules. Et donc, j'avais tous les rôles, en plus de ça, donc trop bien.
C'est incroyable, ça.
Ah, attends, c'est... quand même, c'est pas donné à tout le monde.
Après, c'est incroyable, non, quand on a un talent et qu'on est repéré par un directeur de casting et un réalisateur, c'est aussi ça. Tu vois
qui était aussi scénariste, ingénieur son, oui, faisait tout. Mais donc, en fait, c'était ça notre activité, c'est-à-dire que Jules prenait sa caméra... Moi, mon talent, et on tournait un film dont on avait écrit le scénario en général 3 minutes avant. Et le film qu'on tournait, finalement, une fois monté, n'était qu'une bande-annonce parce qu'on s'était dit « Oh non, il faut couper ». Et que bah, voilà, on s'ennuyait un peu vite et qu'on voulait tourner autre chose. Donc on sortait beaucoup de productions, hein, franchement. Ouais, je pense qu'Isabelle Huppert a moins tourné que moi dans les films.
Et donc, ça confortait ton envie de devenir acteur plus tard?
Oui, ouais. Ça m'a vraiment suivi jusqu'au lycée, où il a fallu faire un choix d'études après le bac, etc. Là. Et là, j'ai dit à mes parents, bah, moi, je veux devenir acteur. Et mes parents ont dit, bah non, en fait, parce que c'est... Enfin, ils n'ont pas dit exactement ça. Ils m'ont dit, en fait, oui, acteur, c'est bien, mais c'est quand même un peu casse-gueule. Si ça marche pas pour toi, après, tu te retrouves avec rien. Et donc, ce serait pas mal que tu aies quand même un diplôme dans quelque chose et qu'ensuite, tu puisses te lancer dans une école de théâtre ou de ce que tu veux, et zoup la boum. Et donc oui, j'ai quand même toujours voulu devenir acteur, jusqu'au lycée, et jusque tout le temps, jusqu'aujourd'hui.
Dans les films que tu faisais avec Jules, à l'époque, ça a été quoi un peu ton hit au box-office? Vraiment le film qui, selon toi, a marqué une génération, c'est-à-dire vous?
Oui, franchement, celui qui a été le plus chiadé, le plus travaillé, le plus beau, et d'ailleurs le plus vu... sur notre ex-chaîne, c'est Les Liaisons Dangereuses, qui est un livre, évidemment, de Coderlo de Laclos, sorti en... Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a été ensuite refait en film par Stephen Frears, notamment. Et quand on a vu le film, on s'est dit, mais en fait, c'est trop cool, il faut qu'on refasse ça, notre sauce, etc. Donc on l'a fait. Pour le coup, on avait plein d'acteurs parce que c'était au lycée, qu'on avait plein d'amis et que tout le monde était, mais oui, c'est trop bien, on est trop chaud, machin. Et on avait des costumes d'époque. Franchement, on avait vraiment travaillé le truc. Jules a une maman qui chine énormément. Et donc, du coup, qui avait accumulé des tenues qui étaient trop cool. Il y avait une vraie robe d'époque, etc. Enfin bon, Jules avait en plus une maison, donc il y avait un jardin. On pouvait tourner vraiment dans plein de pièces différentes. Et donc, voilà. Donc, on a tourné Les Liaisons Dangereuses en se disant, ça va être un film. Et ça a été qu'une bande-annonce, comme d'habitude. Donc, on en a sorti 3, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'images. Donc, on s'est dit, bah voilà, il y a 3 bandes-annonces différentes. Et voilà. Ouais, sans avoir les droits sur la musique, sur rien du tout. Mais bon, après tout...
Oui, bah, et puis il y a un moment, voilà, c'est la créativité avant tout, c'est les artistes, voilà, faites place aux artistes, évidemment.
La liberté de penser, comme disait Florent Pagny.
Exactement. Et il n'y a pas aussi un film dont tu me parlais qui se passait, je sais pas, une maîtresse de maison, une...
J'ai failli m'étouffer. Mais absolument. Eh bien, je suis désolée, Jules, de raconter cette anecdote. Mais une après-midi, en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et comme d'habitude, on s'est dit, bah, faisons un film. Mais on n'avait rien écrit. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave. Oh, allez, ça se passe à quelle époque ? Bah, je sais pas, mais dans une époque un peu lointaine. Voilà. Une époque où il y avait des servantes et des maîtresses de maison.
Et donc, qui faisait la maîtresse ?
Jules.
Jules faisait la servante.
Et moi. Moi, je faisais la servante. Donc, Jules a enfilé une robe d'époque. Vraiment. Quand je dis époque, on est dans la chronique des Bridgerton. Vraiment. Donc, hop, robe d'époque, une perruque un peu longue. On avait dû se maquiller un peu un teint blanc quand même, un peu blême pour être dans l'époque. Et moi, j'ai enfilé une robe de chambre, mais vraiment immonde. Enfin, un truc blanc à froufrou avec une perruque Amélie Poulain. Et là, bah, ça tourne. Vraiment, on n'a rien écrit. Donc, improvisation totale. Donc moi, je sais pas, j'ai un globe dans les mains, mais un globe, je sais pas de quelle époque, avec un peu en papier. Et je suis là, regardez madame, vous voyez, c'est ce que les philosophes nous ont ramené de leur voyage. Vraiment, Jules assis à côté de moi, avec plein de parures de bijoux sur lui, odieuse, complètement, à me dire, espèce de sotte, enfin des choses vraiment mais gratuites, et qui n'ont rien à voir dans le scénario. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Enfin voilà. Et il fallait surtout trouver une fin. Et donc on s'est dit, bah, comme toute fin qu'il faut trouver, il faut que quelqu'un meure. Donc c'était moi, la servante meurt. Je meurs, je ne sais plus trop comment, mais sûrement assassinée par ma maîtresse de maison. Et comme ça ne suffisait pas, elle me dévore. Donc elle me découpe et elle me mange. Et là, Jules s'est dit, bah, on va faire la chair en mélangeant du pruneau avec du faux sang. Non comestible, mais que je vais quand même mettre dans ma bouche. Donc il y a vraiment un plan de Jules avec... La bouche ensanglantée de ce mélange de pruneau faux sang, et qui dit cette phrase de fin que moi je trouve iconique, qui est « Elle était bonne, cette conne. » Et vraiment, mais moi je veux que ce soit presque mon épitaphe.
Ouais.
« Elle était bonne, cette conne. » Et on se la redit souvent, en fait.
« Elle était bonne, cette conne. » »«
Elle était bonne, cette conne. »
C'est vraiment... C'est iconique comme phrase.
Ben c'est comme ça, tu vois, c'est notre capacité d'impro, ouais.
Je sais que, de toute façon, toutes ces archives-là existent et que vous ne les montrez pas. Mais moi, j'aimerais tellement voir ça.
Mais en réalité, elles existent et on ne les montre pas parce qu'on ne les a pas revues, parce qu'elles sont toujours sur des mini-DV, ouais. C'est les petites cassettes de l'époque, quoi. Et il faut qu'on les passe, qu'on les numérise.
Ouais, faudrait les numériser.
Bien sûr, et qu'on les diffuse quand même pas, mais...
mais au moins les numériser.
Exactement, première étape.
Oh là là, elle était bonne. Cette conne. En parlant de conne, non, il n'y a pas du tout de transition comme ça.
Dommage.
Donc, bon, bah, si j'ai bien compris, en fait, vous continuez de vous voir, vous continuez d'être amis et chacun suit un peu sa route et son chemin, comme un indien dans la ville. Tu te diriges vers des études psy. Mm-hmm. Comment t'y arrives et qu'est-ce qu'est vraiment ce déclic ? Pourquoi pas ça ?
Puisque vous avez suivi cette interview, vous avez bien compris que je m'intéressais à la sorcellerie. Qui est quelque chose de bah oui de comment on dit de bah d'impalpable hein, finalement quand même
un peu abstrait,
voilà, c'est très abstrait et puis c'est invisible dans sa démarche en tout cas. Et la psychologie pour moi était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté très mystérieux, mystique même, d'impalpable mais qui fonctionne quand même et qui existe. Et c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire que même si la science a beaucoup, beaucoup fait par rapport à la psychologie et vice-versa, il y a plein de choses, on ne sait quand même pas encore pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne en psychologie. Je pense à des thérapies notamment, hein, et des méthodes qui fonctionnent, etc. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et donc ça m'intéressait. Tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, c'est génial, parce que peut-être que si je connais la psychologie, j'arriverai à faire des choses que personne n'arrive à faire. Et puis, la psychologie, c'est aussi la parapsychologie. C'est-à-dire tout ce qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux qui sont créés par notre cerveau, etc. J'avais entendu cette phrase aussi qui disait qu'on utilisait que, je sais plus, 2% de notre cerveau, et que si on utilisait les 98% autres, on pouvait faire des choses incroyables avec. Et voilà, ça me fascinait tout ça. Et donc voilà, j'avais l'impression en fait qu'en faisant cette branche-là, j'allais acquérir un pouvoir que d'autres n'auraient pas. Et je trouvais ça trop cool. Donc je me suis dirigée là-dedans. Mais j'ai vite compris que c'était pas ça. et que j'allais jamais lire dans l'esprit des gens, etc. Mais c'est encore, par contre, un préjugé qui a la vie dure, hein, parce que... Pardon, je fais un petit rond. Quand je me...
Reglisser dans Absolument Fabuleuse.
Pardon, c'est vrai, je m'égare. La frontière est mince, hein, c'est fou.
Ouais, un rond et hop.
Et hop, c'est sur podcast. Un autre podcast.
Il va être immontable, ce podcast.
Mais avec Jules, c'est vraiment un truc qui nous lie aussi, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des ramifications de sujets et de revenir à chaque fois sur le début de chacun des sujets et de là où on partait. Et je me rends compte que je n'arrive pas à faire ça avec beaucoup, beaucoup de monde. Mais vraiment, des ramifications parfois, mais c'est... Enfin, c'est une mangrove, le truc. Vraiment. Et c'est dingue. C'est vraiment un truc qui nous a suivis depuis toujours. Donc, bref. Ça me parle.
Avec le fameux bref, justement.
Le fameux bref.
Le fameux bref.
Bref. Ça aussi, hein.
Ça, ouais. C'est mon truc, bref.
Eh oui.
Ça, c'est pour moi, c'est un peu de l'ASMR, j'avoue.
C'est un peu violent, quand même. Mais parce que c'est un peu le truc des arts martiaux, tu vois. Quand tu donnes un coup, tu cries en même temps, parce que ça libère d'un coup. Et ben, je crois que c'est ça. C'est un truc, okay. Au lieu de faire un petit souffle, tu sais qu'il va être... Qu'il n'y a rien, ouais. C'est mou. Ben, tu fais un... Et là, t'es... Ça
t'es vivifié,
quoi.
Ouais.
T'as vidé, en même temps, t'es vivifié, complètement.
Ouais.
On disait quoi, du coup?
Bah non, on a le talent d'y revenir.
Pas
non, on était sur toi et sur, justement, psychocoiffe, ta mini-dépression.
Ouais.
Et là, on y arrive et tu te dis, en fait, non, je ne vais pas faire de la magie sur les gens.
Tout à fait.
Voilà.
Et j'étais en train de faire un roux. Ce qui est assez drôle, c'est qu'encore aujourd'hui, quand parfois je me retrouve avec des individus que je ne connais pas et à qui je dis que je suis psychologue, on me dit parfois vraiment, ah, mais du coup, tu vas lire un peu dans mes pensées. Ah, mais là, tu es en train de m'analyser, etc. Des trucs, mais en fait, qui des préjugés qui ont la vie dure.
Et du coup, t'es en train de m'analyser, là?
Oui.
Ah, ok.
Et ça fera 70 euros. non, mais donc, voilà. Donc, au final, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas et que c'était...
Mais ça t'a plu quand même. Ça t'a pas arrêté. Tu t'es pas dit, bah non, en fait, très peu pour moi.
Non, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, quand même, il y avait ce côté-là toujours un peu de... On n'a rien, on n'a pas encore tout prouvé. On ne sait pas encore complètement comment tout fonctionne. Et du coup, ça reste magique. Et puis aussi, quand même, malgré tout, c'est utile. Ce n'est pas que magique. Je veux dire, la magie, c'est sympa, ça divertit. La psychologie, c'est magique, mais ça ne fait pas que divertir. C'est-à-dire que ça on n'a pas le droit de dire que ça soigne, mais en tout cas, ça améliore la santé. Et parfois, ça va au-delà de ça, quoi. Ça sauve parfois des vies. Vraiment.
Tu t'es pas trompé de voix?
Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, j'espère quand même que si m'était arrivé de me dire que je m'étais trompé de voix, je me serais arrêté avant 5 ans. Quand même, parce que c'est long. Non, vraiment. Après, donc, j'ai pratiqué quand même, hein, pendant 8 ans, je sais plus. Ouais, pendant 8 ans, j'ai pratiqué. Et en fait, j'ai toujours pris du plaisir. Quand j'en ai plus pris, je me suis dit, bah, en fait, c'est fini, il faut que je passe à autre chose. Et au départ, je travaillais en institution, dans le public, et pour la mairie de Paris. Et du coup, j'en ai fait le tour à un moment donné, du coup, j'ai arrêté. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet, et là, j'ai commencé à recevoir vraiment une patientèle à moi.
Ok, et c'était agréable d'avoir sa patientèle.
Ah ouais, c'était génial. C'était génial parce que je pratiquais aussi une forme de psychologie qui était brève, une forme de thérapie brève. Je m'étais formé à l'hypnose aussi entre-temps, qui était pour moi complètement de la magie, pour le coup. Parce que j'avais l'hypnose de spectacle aussi en tête, comme beaucoup. Hein. Et non, c'est évidemment pas... C'est une infime partie de l'hypnose, l'hypnose de spectacle. Donc j'ai fait de l'hypnose thérapeutique, et du coup j'avais des patients vraiment pendant peu de séances. Donc j'avais comme ça une patientèle qui se renouvelait, et du coup des rencontres très 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 fréquentes avec de nouvelles personnes, avec des problématiques... Et puis des nouvelles réussites, des nouveaux échecs aussi, parce qu'on réussit pas tout le temps. Hein. Mais c'était super chouette. J'aimais beaucoup le contact. Et puis j'avais des bons retours, puisque comme j'aimais mon métier, bah, je pense que ça se sentait, quoi.
Être psy, est-ce qu'on arrive facilement, bon, ce serait con, hein, mais à justement à se séparer un petit peu de ce qui nous est arrivé dans la journée, des histoires qu'on nous a racontées dans la journée, et rentrer chez soi de manière là, pop, 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 ou pas trop? Ou ça, y a des choses qui restent parfois un peu.
Eh bien, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que on est tous différents, tout est tous différents à, avec ça. Mais moi, j'ai toujours considéré que mon métier était un rôle. Donc, à chaque fois que j'étais psy, je mettais mon costume de psy. Et donc, c'était pas Guillaume, c'était le psy. Je sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, c'était un psy.
Ok.
Ce qui fait que ça me permettait aussi parfois de recevoir aussi des gens que je connaissais. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'affect dans, dans cette thérapie-là. Ce qui était bizarre parfois pour les personnes qui avaient en face d'eux quelqu'un qui était différent un peu, qui s'exprimait différemment, etc. Enfin, je pense qu'on est tous un peu, toutes et tous un peu pareils. C'est-à-dire que quand on est dans notre activité professionnelle, on n'est pas comme avec nos parents, par exemple.
Une certaine forme de drague aussi, j'imagine.
Ah ben, c'est, ben, du coup, c'est complètement du drague, hein. Et ce qui est aussi hyper important, et ça je le dis en tant que prévention, parce que quand j'enlève mon costume de psy, c'est pareil, je laisse toutes les problématiques de mon métier avec mon costume. Donc c'était hyper pratique, et en même temps je dis ça, c'est plus facile à dire peut-être qu'à faire, hein. Mais donc tous mes problèmes, toutes mes problématiques que je pouvais avoir en tant que Guillaume dans ma vie personnelle étaient vraiment rangées dans mon vestiaire quand je prenais le costume du psy, qui était lui pour le coup... voilà, moi j'ai mes méthodes, j'ai ma déontologie, toute ma boîte à outils, etc. Et rien d'autre, quoi. Le deuil que Guillaume a à faire de la perte de je sais pas quoi, l'engueulade qu'il a pu avoir avec je sais pas qui, la déception, l'échec, de trucs. Il n'y a pas ça puisque c'est pas moi.
Ok.
Voilà.
Donc t'as réussi à bien compartimenter les choses.
Complètement. C'est un peu schizophrénique dans la manière de gérer ça, mais en réalité, on dit qu'on l'est tous un peu.
En parallèle de ta carrière de psy, tes études et tout, vous continuez du coup de vous suivre avec Jules, vous voyez tout le temps, souvent
Mais oui, c'est-à-dire que Jules, c'est quand même fou, mais il faut imaginer qu'on passe un temps fou quand même à l'école. Hein. Donc maternelle, primaire, collège, lycée, on est tout le temps ensemble avec Jules. Soit dans la même classe, si on n'est pas dans la même classe, on se voit dans la cour. Si on ne se voit pas en cours, on se voit après. On se voyait... tout le temps, week-end compris. Après, on avait aussi nos propres activités, nos propres envies de notre côté, mais voilà, on a toujours continué à se voir, ouais, complètement.
Et donc, comme ça,
oui.
Vous étiez les mean girls à l'école.
Ouais, oui, c'est vrai. Ben, c'est assez dur à croire, en plus, et je pense que ça va... choquer plus d'un et plus d'une, mais effectivement, on était vraiment...
Je vous préviens, un mythe... Elle s'effondrait.
Ah ben là, c'est...
Là, c'est vraiment... Là, les masques tombent.
Pour planter un peu le décor, le collège, c'est quand même difficile.
Oui, ben voilà. Maintenant, c'est le collège est difficile.
Non, mais... attends. On arrive en CM2, on est les plus grands.
C'est vrai.
On est les plus grands, mais on est sympas avec les autres. Et on arrive en 6e, et on devient les plus petits tout d'un coup. Horrible, cette chute. On n'a pas l'âge pour pouvoir supporter une déception aussi forte.
Non. On prend cher.
On prend très cher.
Et du coup,
comme une revanche sur cette vie difficile, eh bien oui, nous étions des monstres avec certaines personnes qui ne le méritaient pas. Parce qu'on ne pouvait pas être des monstres avec celles et ceux qui le méritaient, puisqu'ils étaient plus forts que nous. Donc on déchargeait, je crois, notre frustration sur des personnes plus faibles. Et donc c'était mais vraiment des pourritures. Vraiment, on a été... Quand je repense à certaines choses, on a été vraiment des pourritures. Enfin,
exemple.
J'ai essayé de prendre un exemple où je peux anonymer les gens, parce que s'ils nous écoutent... par exemple, on a piqué la trousse de quelqu'un et on l'a vidée dans les égouts. Dans une bouche d'égout. Et cette bouche d'égout se trouvait sur notre passage pour passer de la cour à la classe. Et donc, c'est la fin de la récré, on se range en rang, et puis la prof nous amène jusqu'à la classe, donc on passe au-dessus de la bouche d'égout. Et là, on interpelle la personne à qui on avait piqué la trousse et vidé l'intégralité dans la bouche d'égout, et on lui dit « Bah regarde, c'est bizarre dans cette bouche d'égout, c'est pas tes stylos ?» Et si, c'était ses stylos. Et c'était monstrueux de lui montrer ce qu'on avait fait nous-mêmes en accusant quelqu'un d'autre voilà, en accusant X. Non, c'est ignoble. Et on a dû partir en riant comme des hyènes. Enfin, c'était... Et c'est un exemple, je sais pas. Et un autre exemple, c'est qu'en cours de latin, puisque oui, j'ai fait du latin pendant 7 ans, Abemus Papam d'ailleurs, enfin, voilà, pour celles et ceux qui m'ignoraient.
Rosa et Rosas.
Mais tout à fait, bravo. Hein.
Bah merci beaucoup.
Ouais, bah, ça c'est. Il y a des restes, hein, ou des traumas plutôt. Mais en cours de latin, on était assis derrière une personne qui avait une doudoune blanche, qu'il avait posée sur ce, bah, sur son dossier de chaise. Et là, bah tout naturellement et tout gratuitement, on a décidé de prendre nos stylos plumes et puis de balancer de l'encre dessus. Donc ça a fait des grandes traînées sur ce manteau blanc. Et la personne est rentrée chez elle. Et évidemment qu'on a reçu un appel de la maman de cet élève pour nous dire bah, « En fait, votre fils a complètement bousillé la doudoune de mon fils. » et voilà.
Des monstres.
Mais oui, puis sans excuse, quoi. Cette personne nous avait rien fait. On s'excuse d'ailleurs si tu nous écoutes, Camille.
Et oui, mais après, est-ce que c'était pas aussi un premier pas dans la mode et dans le voilà, vous dites « Tiens, en fait, cette doudoune blanche, non. » Faisons des coulures.
Mais c'est complètement Copernic.
C'est très Copernic.
Mais non, mais complètement. Je pense qu'on était un peu avant-gardiste et qu'on avait ce besoin ouais, de créer. Et on a créé ouais, des belles choses. Et en plus, on s'était créé du coup des amis. Nos amis étaient des monstres. Je ne sais pas si on les avait formés aussi, mais il y avait un petit gène naturel quand même qui demandait qu'à germer. Et ben bah nous, venez dans notre groupe. Venez dans notre groupe, you can sit with us. Et vraiment, bah, on y va. On va bully les autres. Voilà, mais parce que c'était une revanche. Encore une fois, je clôrai ce débat en disant que c'était une revanche sur la vie qui était difficile au collège Ronsard. Désolée, et si je les retrouve, je rendrai tous mes stylos senteurs que j'avais piqués.
Oh, parce qu'en plus, t'avais volé des stylos dans cette pause.
Mais ce qu'on avait jeté, c'est ce qu'on ne voulait pas. Mais on avait piqué tout le reste. Ah non, mais c'était terrible. Mais moi, j'avais une trousse remplie de stylos de couleurs différentes dont je ne me servais pas. C'est des stylos senteurs qui avaient une couleur très mentalo. T'écris pas avec ça, puisque la prof raye en écrivant illisible. Mais je les mettais dans mon nez en disant « ça sent la menthe fraîche !» Et c'est tout. C'est ridicule. Donc, mais on les volait, voilà. Enfin bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Passons à un autre sujet.
C'est un autre sujet. Non, mais tu sais quoi ? On va passer à la deuxième partie de l'émission. Rose et Poulani, comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi c'est arrivé ? Vous le saurez bah, juste après les questions de Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia. Question.
Donc, à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale qui s'appelle Mia et qui est allée enquêter sur toi, Rose.
Elle est hyper douée et mature.
Hyper enquêtrice.
Waouh, ok.
À 5 ans, elle a une loupe, un chapeau un peu bombé, avec des oreilles qui retombent sur les côtés. Elle a une pipe.
Ah bah ouais. Oh, mais faut commencer jeune parce qu'il faut habituer un peu les cordes vocales et les poumons.
Un impair hyper sympa et elle est à l'enquête. Elle mène l'enquête.
Bah non, c'est dingue. Hein.
Ouais.
Et je pense qu'en plus les enquêteurs de maintenant sont encore comme ça. Hein, parce que c'est discret.
Bah c'est hyper discret. Bah au moins tu passes partout.
Bien sûr, de Fort Boyard. Oh.
Ouais.
Alors ça c'est complètement. Est-ce que tu te souviens des livres audio de l'époque ?
Oui.
Bonjour, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge et quand vous entendrez ce son, il faudra tourner la page. Mia a donc une question pour moi, je t'écoute Mia.
Coucou Rose, pourquoi tu t'appelles Rose ?
Eh bien Mia, tout d'abord merci de me poser cette question. La légende raconte que je m'appelle Rose car je viens d'une ville qui s'appelle L'Île-et-Rose. Et dans cette ville L'Île-et-Rose, il y a la plus grande roseraie du Val-de-Marne. Non pas du tout, c'est la plus grande roseraie d'Europe. Mais ça je sais pas si c'est mes sources ou celles officielles. Mais en tout cas c'est une immense roseraie qui est magnifique, j'invite vraiment tout le monde, allez voir cette roseraie. L'entrée est à 4 euros. 4 euros, franchement. Et donc, je crois que mon nom Rose vient de là.
Tu crois ?
Mais je crois parce que...
C'est selon les sources.
Mais en réalité, avec Jules, à un moment donné, quand on essayait de trouver notre nom de drague, on réfléchissait à ce qu'on voulait, etc. On avait trouvé un nom de famille et il nous fallait un prénom qui puisse aller avec ce nom de famille. Et moi, je m'étais dit, bah, Rose, en fait, c'est pas mal. Puis ça allait avec mon personnage, tu vois, de femme un peu assez classique, mais une belle femme, un peu style 8 femmes, tu vois. Mm-hmm. François Ozon, qu'on embrasse.
On l'embrasse.
Je suis disponible pour jouer dans le prochain film.
Qui nous écoute.
Tout à fait, François. Coucou. Ne fais pas comme si on ne te voyait pas.
François,
mon DM est ouvert.
Mais alors, tu dis que Rose, elle avait un nom de famille. C'est quoi le nom de famille de Rose?
Eh bien, c'était Vendôme. Vendôme, je dis ça Vendôme, hein, quand même, finalement. Comme la place Vendôme. Mais ça s'écrivait Van Dôme, un peu comme dans les pays, tu sais, aux Pays-Bas, ou en... Voilà.
Mais ça, c'est un peu une particule. C'est parti.
Je pense que la raison principale, c'est qu'on était toujours en duo. Et que Pounani aussi avait un nom de famille.
C'était quoi le nom de famille de Pounani?
C'était Jelinski.
Pounani Jelinski?
Jelinski. Jelinski, qui est, elle le dira mieux moi-même très certainement, mais Jelinski, c'est le nom d'un personnage dans la famille Adams. Debbie Jelinski. À un moment donné, qui est la femme de Oncle Fétide. Et donc, Rose Vendôme et Pounani Jelinski, ça faisait beaucoup trop long, en fait, pour les gens. Et puis, il n'y avait pas d'Instagram disponible aussi long. Donc, je pense que c'est là où on se dit, bah, en fait, on sera Rose et Pounani, quoi.
T'as combien de robes?
J'ai... je peux te le dire. Je peux te le dire, puisque j'ai inventorié...
Inventé le mot? T'as déjà inventé le mot?
Néologisme. J'ai fait l'inventaire de toutes mes robes, toutes mes tenues, et j'en ai plus de 100... Je dois être à 120. Mais moi non plus, je m'y attendais pas, vraiment. Alors, c'est pas que des robes, hein. Ça peut être des ensembles.
Et ça, c'est accumulé, collectionné en combien de temps, l'espace de combien de temps c'est,
On a commencé le drag avec Pounani il y a 10 ans.
Ça veut dire qu'en 10 ans, ça fait une tenue par mois?
Moi, j'ai un bac littéraire, alors je te laisse le soin de 120. Calculer.
Divisé par 10.
Sûrement, c'est ça.
Il y a 12 mois dans l'année.
Ah oui, t'as raison, une tenue par mois. C'est ça. C'est ça, et sachant qu'en réalité, si on faisait le vrai calcul, là, ce sont des tenues... Enfin, si tu veux, il y a eu un circuit, c'est-à-dire que je prends des tenues, je les revends, ou je les redonne, ou je les jette parfois, hein, parce qu'elles sont plus mettables. Hein.
Et comment tu choisis alors, une tenue pour Rose? Qu'est-ce qu'est une tenue pour Rose?
Ouais, j'ai pas mal de critères pour une tenue pour Rose, même si j'essaie quand même de pas me fermer. Parce que je me dis toujours, c'est bien d'évoluer aussi dans son drag. Et Rose a beaucoup évolué dans son drag. Hein. Vraiment, quand je regarde des photos de l'époque, je me dis, c'est bien, quoi. C'est bien qu'il y ait eu cette époque et puis maintenant une autre. Mais j'ai toujours des critères qui sont quand même importants. J'ai besoin d'avoir vraiment une silhouette présente. Je suis une personne avec des formes quand même, et donc j'aime bien accentuer ça. Donc j'aime bien avoir des grandes épaulettes, j'aime bien avoir une taille très marquée, j'aime bien que les hanches puissent ressortir, j'aime bien, enfin, il y a vraiment des choses qui vont être importantes. Le col, c'est hyper important pour moi. Vous verrez peut-être quasi jamais avec un col rond style t-shirt ou un col V ou bref, un col qui est pas joli. Il y a des choses comme ça, parce que c'est près du visage, ça encadre le visage, donc c'est quand même le truc qu'on voit vraiment. Donc voilà, il y a des critères comme ça. Puis je veux quand même de la couleur aussi. Le noir, c'est très joli, et ça va dans plein d'occasions, mais c'est un peu trop classique. Et j'ai aussi remarqué, d'ailleurs, que c'est ce qu'on perd un peu quand il y a, par exemple, une photo collective avec plein de dragues. Celles qui sont habillées en noir ou en gris, dans des teintes un peu comme ça, apparaissent moins. Ce qui est finalement un peu logique, hein, mais bon, voilà.
Donc, un beau col, de la couleur.
Une jolie forme, des belles épaules, pas des manches t-shirt non plus. Faut que ce soit trois quarts. Trois quarts, j'adore les manches trois quarts.
Ok.
En fait, je parlais de François Ozon tout à l'heure et c'est pas anodin, François. C'est mon film préféré de tout temps, c'est 8 femmes. Et vraiment...
Ah, elles sont lookées.
Bah, les costumes sont dingues dans 8 femmes. Et toutes. Vraiment, je sais pas, ce moment où Fanny Ardant va enlever son manteau et qui a cette robe rouge en dessous, qui n'est rien quand on l'étudie, cette robe, elle n'est pas grand-chose en fin de compte. Mais il y a une belle silhouette. Catherine Deneuve, c'est pareil. C'est très beau. Donc voilà. Isabelle Huppert.
Eh bien, tu sais quoi, c'est la fin des questions de Mia.
Bon, il faut qu'on dise au revoir à Mia.
Et du coup, il faut qu'on dise au revoir à Mia. Au revoir, Mia, et merci beaucoup pour tes questions. Encore une fois, c'était vraiment incroyable.
Salut, c'était super. Je vais être une bonne soirée.
Eh ben merci beaucoup, Mia. très bonne soirée.
Très bah, je sais pas trop quoi dire là, mais bonne soirée. Ouais, bon, profitez bien. Moi, je vais continuer mon enquête.
Elle repart avec sa loupe, sa pipe et son chapeau et son imper et elle repart enquêter sur la prochaine.
Allez, bon courage, Mia, pour tes enquêtes.
Merci beaucoup, Mia, et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te poser toutes ces questions. On continue. Parce ouais. que ça ne s'arrête jamais, cette interview, ok? Là, on est déjà à 1h24 d'enregistrement. Voilà, qu'on se le dise. Voilà, hashtag le montage, c'est ma vie.
Bon courage à la personne qui va faire le montage.
Moi! C'est-à-dire ma personne. Avant les pertinentes questions de Mia, on allait arriver donc à Rose. Comment tu as découvert le drag?
J'ai découvert le drag. Déjà, quand on faisait nos vidéos avec Jules, je jouais tous les rôles et principalement des rôles féminins. Donc voilà, ça veut dire que je mettais une perruque et puis que je me maquillais un petit peu. Mais c'était pas du maquillage drag, c'était vraiment du maquillage féminin, mascara, rouge à lèvres, point final. Ok, ensuite, quand j'ai commencé le lycée, j'ai fait du théâtre. Et là, je voulais jouer quasi que des rôles féminins. Donc pareil, j'ai commencé à me maquiller et à m'habiller aussi de manière féminine. Mais j'y allais plus fort, parce que c'est du théâtre, donc il faut que ce soit plus visuel. Donc ok, bon. Et ensuite, je crois que on a continué à faire des vidéos, et je jouais toujours des personnages féminins. Et puis Jules s'est intéressé aussi à ça, jouer des personnages féminins comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, le rôle de la maîtresse.
Elle était bonne cette conne.
Et donc je crois qu'on ça nous plaisait un peu cette esthétique de tiens en fait on commence à se créer un peu un personnage. Bon, il y avait un petit début de ça, en tout cas une petite graine qui était là plantée. Et puis est arrivé RuPaul's Drag Race aux États-Unis. En France ça n'existait pas, mais je ne sais plus comment on a eu vent de cette émission, c'est arrivé en tout cas, et on a commencé à regarder.
Ok.
C'était super compliqué, parce qu'il fallait regarder ça sur un site obscur, en mettant un VPN pour pouvoir te loguer comme si t'étais américain, et pouvoir donc regarder l'émission sans sous-titres. On ne comprenait rien, parce que...
Ouais, c'était des codes très particuliers, ouais. de langage, qui s'autocitent aussi.
Oui. Oui.
En permanence, donc si t'as loupé la première citation, tu ne comprends pas du tout.
Ah, c'est terrible, il y a du slang, il y a plein de manières de parler en plus qu'on n'avait pas effectivement des codes comme tu disais, puis notre niveau d'anglais était juste pas non plus bon quoi.
Slay Mama
the house down, tout à fait, au cru. Et...
Pardon, attends, de quoi tu disais?
Au cru.
Tu l'as plus fait au cru.
Au cru, oui. Qui est plutôt au cure d'ailleurs, qu'on dit apparemment.
Au cure.
Moi je disais au crrr. Le R Edith Piaf, bien sûr.
Oh là là, tu le roules tellement bien.
Arrête. Et donc, RuPaul, on a commencé à regarder RuPaul's Drag Race, la saison 1. Et ça nous a plu. On s'est dit, mais en fait, c'est quoi ce phénomène qui nous vient des États-Unis?
Qu'est-ce que c'est?
Et on a découvert le mot drag. Je ne sais pas s'il n'existait pas en France, en tout cas, il n'était pas répandu. C'était encore une époque où on parlait de travestis, de transformistes. Il y avait un espèce d'amalgame avec tout ça, et je crois aussi que les drag queens, on les trouvait principalement dans des milieux assez fermés, c'est-à-dire des boîtes, des clubs.
Oui, qui faisaient principalement du gogo.
C'est ça.
Après, c'est vrai qu'il y avait... le mot drag queen est arrivé en France, notamment... grâce à Tonya Loren et aux Sister Queen,
oui,
avec la chanson Let Me Be Drag Queen.
Tout à fait. Et puis on est encore quand même sur une chanson qui est en anglais.
Oui, exactement.
Tu vois, en Angleterre d'ailleurs, c'était quelque chose de très répandu. C'était un art qui était très répandu. Je sais même pas d'ailleurs si on parlait d'art, tu vois, à l'époque. C'était Ouais, on était plus dans le domaine du divertissement, en fait.
Mmh, une fantaisie.
Exactement, une fantaisie. Et donc là, vraiment, on s'est dit, bah, en fait, il y a un mot là-dessus, sur cette pratique. Et ça nous a plu. On s'y est retrouvés, en fait.
Et c'est pas forcément étonnant, parce qu'en plus de ça, avec toutes vos vidéos, ce que vous faites, ça ressemble un peu à plein de challenges de Drag Race, qui sont des challenges de comédie, de chant, où on doit se mettre en scène dans certaines situations, et qui étaient déjà des choses que vous faisiez dans votre quotidien, sans savoir vraiment que... Bah, que oui, enfin, pas que ça existait, mais que d'autres personnes le faisaient aussi comme ça.
C'est ça. Exactement. Et que c'était un métier, ou en tout cas, voilà, quelque chose qu'on pouvait faire plus que juste pour s'amuser ou dans sa chambre. Donc c'est le moment où on a commencé à se dire, bah, on va pousser le maquillage qu'on commence déjà à faire à un niveau supérieur. Et donc, par ramification, à créer notre personnage. Donc moi, Rose, et Pounani. Et évidemment qu'au début, c'était un peu, un peu tâtonnant. Hein. Mais après, ça s'est précisé. Et puis on a commencé à vraiment contourer davantage nos personnages.
Mais tout de suite, ça a été des reines de la mode, Rose et Pounani.
Très rapidement, c'est devenu un peu des reines de la mode pour la raison dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire que la maman de Pounani collectionnait
des drag queens.
Eh ben oui, mais en vrai, oui, hein, c'était un personnage, vraiment. Elle était vraiment drag queen. D'ailleurs, elle a un nom d'artiste, ça s'appelle Coco Fronsac. Et n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est superbe. Et donc, Coco venait donner en primaire, par exemple, quand on était en primaire, elle venait donner des cours d'art plastique ou de dessin, etc. Elle venait aider les maîtresses et les maîtres. Et puis, quand elle venait, elle était souvent habillée très années 70 ou 60 ou 80. Donc, ça pouvait être dans des couleurs un peu intenses, avec des motifs intenses, avec des robes, 8 femmes. Elle avait souvent des pommettes. Elle se faisait 2 ronds roses sur les joues. Elle avait parfois un petit point noir sous chaque œil. Et puis toujours une mouche. Moi, j'ai toujours connu Coco avec une mouche, qui n'est pas sa mouche, hein, qu'elle se fait. Et pour la petite anecdote, je crois même qu'elle se le fait au stylo. Mais enfin, à l'époque,
incroyable.
En tout cas. Et ouais, et cette mouche, nous, on se la fait tout le temps. Et il n'y a pas un seul moment où on n'a pas notre mouche. Si on ne l'a pas, c'est vraiment qu'on l'a oubliée et c'est jamais arrivé.
Vous êtes à poil, quoi.
Ah, on a poil sans notre mouche.
À poil.
Donc en fait, voilà. Donc en réalité, très très rapidement, on a mis les vêtements de la mère de Jules, de Coco. Et en fait, c'était déjà des tenues qui étaient très belles.
Quelles ont été un peu les grandes étapes dans votre construction artistique en tant que drag, et si vous définissez ça comme du drag?
Au départ, on a défini ça vraiment comme du drag directement. On s'est dit, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment du drag. Parce qu'on a été vraiment la première professionnalisation de Rose et Pounani, ça a été d'être incluse dans un groupe, un collectif d'artistes qui s'appelait Crisis. Et là-dedans, il y avait des artistes qui pratiquaient tout type d'art. Il y avait, je sais pas, contorsionniste, danseur, pole dancer, pole danseuse. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Beaucoup d'artistes et d'arts différents. Et puis, il y avait nous, en tant que drag. Et donc, on s'est défini vraiment en tant que drag, parce que quand on était booké quelque part, c'était vraiment, moi, ce soir, j'ai besoin de cette personne qui danse, et puis j'ai besoin de drag queen. Donc, il fallait qu'on puisse se définir comme tel. Et on a tourné pendant un petit moment, quand même, avec ce groupe-là.
Hein. OK.
Dans le fond, en termes d'années, pas tant longtemps, mais par contre, je n'ai jamais fait autant de soirées de ma vie.
Okay.
C'était énorme, mais vraiment on était bookés, je sais pas combien de fois par semaine, tout le temps, et puis quand on n'était pas bookés, on faisait des choses ensemble, on créait des choses, etc.
Et tu prenais plaisir à ça, justement, à être booké, à aller faire des soirées et tout?
C'était hyper cool, parce que du coup, moi, à l'époque, j'étais en plus dans mes études, donc ça me changeait complètement d'horizon, ça me permettait de voir autre chose, et puis c'est un monde... c'est super grisant, en fait, parce que... c'est le monde de la nuit, les gens t'adorent, les gens te... on nous parlait beaucoup de fascination. Le drag, ça me fascine. Vous me fascinez parce que vous arrivez à faire ce maquillage que moi, j'arrive pas à faire. Vous osez sortir en étant comme ça. Donc, en fait, ça nous renvoie quelque chose d'hyper positif, une image hyper positive. Et donc, c'est super flatteur, quoi, en fin de compte. Et ensuite, le groupe s'est dissolu. C'est dissous. Et donc, nous, il a bien fallu qu'on prenne une décision. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est pas parce que le groupe s'est dissous qu'on va ne plus rien faire. Donc, hop, le duo Rose et Pounani a continué d'exister, mais par lui-même. Je crois qu'à cette époque-là aussi, Pounani a commencé à avoir son métier en civil. Et puis moi aussi. Donc, on a été... voilà, c'était pas pour nous l'objectif de professionnaliser Rose et Pounani. Mais en fait, on a commencé de plus en plus à plaire, à avoir aussi des propositions de faire des choses, etc. On a lancé le bingo drag en France. Non, pas en France, mais à Paris.
Dans le monde.
Dans le monde.
Dans l'univers. Vous avez lancé le bingo drag à Paris ?
On a lancé le bingo drag à Paris, bon, absolument.
Bah alors, c'est incroyable.
Oui, avec un organisateur de soirée qui nous a dit que ce serait une super idée de le faire à Paris. Et donc, on l'a lancé. Et on l'a animé pendant, je pense, 3-4 ans. Et puis, comme tout projet qu'on a, bah, au bout de 3-4 ans, on s'est un peu lassé. Et non, d'ailleurs, attends, je te dis n'importe quoi, on l'a pas... Non, l'histoire n'est pas réelle. Enfin, bref, l'histoire est un peu différente, c'est-à-dire qu'on l'a lancé dans un même lieu. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on a été un peu évincé de ce lieu-là et remplacé. Et on s'est dit, bah, qu'à cela ne tienne, en fait, on va organiser nos propres bingos dans plein d'autres lieux différents. Et donc, c'était super, c'était une belle réussite, ça, pour nous, d'aller vers les lieux. Parfois des lieux d'ailleurs un peu émergents, c'était plus facile puisqu'ils étaient en recherche d'événements, pour leur dire, bah, ok, nous on a un bingo qu'on anime depuis X temps et on peut vous proposer de l'animer chez vous. Est-ce que l'espace est ok? Est-ce que vous avez des lots? Est-ce que vous pouvez nous payer, évidemment? Comment ça se passe, machin, machin? Et en fait, on a eu quasiment que des réponses positives.
Incroyable, trop bien.
Génial. Et on l'a animé du coup dans... énormément de lieux de la capitale, et c'était, bon, voilà, c'était épique, mais bon, on l'a animé aux Galeries Lafayette.
Okay.
Vraiment, les gens pouvaient entrer et sortir, mais on était là. Et d'ailleurs, petite anecdote qui n'a peut-être rien à voir avec le bingo, mais c'est un souvenir vraiment, je trouve, un de mes souvenirs importants. Un jour, on était en train de se maquiller en drague sur un lieu dans lequel on allait animer un bingo. Et ce lieu, cet endroit, cet espace nous était réservé. Donc c'était fermé en bas. Par une barrière, en fait, une espèce de lanière. Bon. Et il y a un enfant qui est passé sous la lanière et qui est venu jusqu'à nous, et qui nous voit en train de nous maquiller. Et il nous dit, et j'ai adoré ça, il nous dit, mais vous êtes des clowns ? Et en fait, j'ai eu un temps de réflexion, et je me suis entendu lui répondre, bah non, on est des drag queens ! Et je me suis dit, bah, il va jamais comprendre. Et en fait, il a pas tort. Dans le fond, qu'est-ce qu'un clown ? Qu'est-ce qu'une drag queen ? Et du coup, je crois que j'ai dû lui répondre, bah, on est un peu ça, ouais, on est un peu des clowns. Et là, il nous a dit, et vous pouvez me maquiller ? Et on a dit, bah, il faut quand même que tu demandes à tes parents avant. Il allait demander à ses parents, il est revenu en disant, mon père, il a dit que c'était OK. On l'a pas maquillé parce qu'on n'avait pas du tout le temps. On lui a dit qu'on le ferait plus tard. Donc si tu nous entends, eh bien, on est toujours OK pour te faire un petit maquillage de clown. Voilà. Mais j'ai adoré ce moment, j'ai trouvé
c'est
ça
très
que c'était.
Mignon.
Bah oui, parce que. Oui. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Donc,
mais
ensuite...
c'est très très mignon comme parenthèse. Cette réponse, elle est sympa. J'aurais aimé être cet enfant.
Bah, puis moi, puis en plus de ça, je me suis dit, en fait, socialement, il n'y a aucun problème avec les clowns. Les gens les acceptent. C'est normal. Ça fait rire. C'est OK. On va les voir volontairement. En revanche, les drag queens, il y a toujours un petit truc qui coince. Et c'est moins accepté socialement. Et c'est bizarre. Et c'est pas normal, etc. Alors que, bah, en réalité, la limite entre les deux... Bah, dans le fond, c'est pas...
C'est voilà. Pas si tranché que ça.
Ouais. Bon. Après cet épisode bingo, on a continué à faire ça, puis après, il y a le Covid.
Mais alors, il y a un truc dont m'a parlé Jules.
Dis-moi.
C'est Madame Arthur.
Oui.
Mais comment vous êtes retrouvée chez Madame Arthur ?
Eh ben, justement, à la fin de Crysis, un des créateurs de Crysis... a repris la direction artistique, je crois, ou en tout cas a repris Madame Arthur. Il faisait partie de l'équipe artistique de Madame Arthur et qui donc performait là-bas. Puisque Madame Arthur avait été fermée et puis l'équipe ancienne, enfin l'équipe d'avant avait été, ça s'était terminé. Et puis voilà, donc ça avait été refait, etc. Ça avait réouvert. Et donc évidemment, comme on le connaissait, il nous a dit, écoutez, une fois que c'est un peu lancé, je vous prendrai chacune pour chanter chez Madame Arthur. Donc voilà, on a chanté chez Madame Arthur. On s'est retrouvés au mois d'août à Paris, chez Madame Arthur, à chanter devant... Mais vraiment, je pense, 7 personnes. Mais à donner ce qu'on avait à donner, et en fait, peu importe, qu'il y ait 3 ou 100 personnes dans cet espace minuscule, en fait, on va chanter une chanson de Edith Piaf. Et voilà, quoi. Et puis, l'exercice était difficile, parce que tu chantes avec cette proximité, avec un piano, donc il n'y a pas de il n'y a pas d'autotune, tu ne peux pas tricher du tout. Les gens t'entendent, limite, tu n'as pas besoin de micro. Hein. Et les gens sont là, ils peuvent te toucher, ils te voient de près, etc. Ils ne peuvent pas te toucher, non, c'est faux. Mais ils te voient de près, en tout cas. Et voilà, non, c'était une expérience... C'est vraiment une expérience vraiment cabaret. Mais à l'époque, j'avais l'impression que j'allais voir débarquer Joséphine Baker, quoi, tout d'un coup. Elle aurait pu être là, c'était normal. Ou Zizi Jeanmaire.
Ou Coccinelle.
Plutôt Coccinelle, finalement, quand même. Plutôt Coccinelle et Bambi.
Et Bambi.
Absolument.
Et alors, donc, tout ça, ces aventures, et là, bim, le coco, le Vivi, le Dodo. Et qu'est-ce qui s'est passé? comment vous avez, en fait, essayé de surpasser cette période-là? Et qu'est-ce que ça a développé chez Rose et Pounani? Et je dois même chez Rose.
Et là, on s'est dit, non, on va survivre au Covid. Et Rose et Pounani vont survivre. Et donc, chacune chez nous, on a continué à créer. Ce qui était compliqué parce qu'on faisait principalement des créations en duo. Sauf que quand tu n'es pas ensemble pour filmer, il a fallu trouver des subterfuges. Donc on s'est retrouvé à faire un live sur YouTube où moi, je suis en duplex. Et ils me font apparaître sur un... Je ne sais pas comment c'est fait, mais je suis un vrai hologramme. Pounani est vraiment là. Hein. C'est filmé chez elle. Mais moi, j'apparais en hologramme à côté. C'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. voilà. Et je suis là, il n'y a que des bugs. J'entends rien. Je suis en décalé. Enfin, c'est vraiment... Est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Enfin, c'est, rien ne fonctionne. Mais ça a fait énormément rire du coup les gens. Et donc, on faisait des lives où on faisait rire les gens. Et on se disait, en fait, il faut qu'on crée tous les deux jours. Une fois sur deux. Donc en fait, une fois sur deux, on faisait du drag. Et ce qui est énorme, en fait, pendant toute la période du Covid, là.
C'est gigantesque.
Donc une fois sur deux, on était à se maquiller et à créer. À faire des réunions, à se dire qu'est-ce qu'on va créer la prochaine fois, qu'est-ce que machin. On organisait des lives sur Instagram avec des thèmes. Donc, on n'a pas organisé un bingo, mais on a organisé des jeux comme ça. Il fallait deviner le prix d'un abri nucléaire, enfin, des choses comme ça. C'est très, très drôle.
Mais je regrette de ne pas être tombé sur vous pendant la période du Covid.
Ah tu es peut-être tombé sur nous, mais t'as peut-être swipé.
Je pense pas.
Et on a même fait des lives avec des personnalités, parce qu'on se disait, en fait, c'est trop cool. On peut aussi inviter des gens, puis parler de choses, etc. On a eu Zaya, qui était sur notre live. On a eu Monsieur Poulpe, qui était sur notre live. On a eu Mara Dénudée, qui était sur notre live, qui est une effeuilleuse merveilleuse. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a continué à vivre, mais c'est aussi comme ça qu'on a gagné énormément en visibilité. Parce que les gens avaient besoin de se divertir, de voir des choses, de rire, et on était là pour subvenir à leurs besoins. Il y a eu un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, où en fait on avait le droit de sortir de chez nous, mais jusqu'à une certaine distance. Et à l'époque, Jules habitait dans un arrondissement du mien. Et on s'est vraiment retrouvés à la distance, on avait le droit de se retrouver, sauf qu'on n'avait pas le droit, on devait garder aussi des distances de sécurité avec les gens. Hein. Distance de... Sécurité? Non, pas du tout.
Non,
ça, c'est en voiture.
C'était...
distance de...
sanitaire.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je revois très bien ce moment où je vois Jules, déjà, je ne l'avais pas vu depuis des semaines, donc on était hyper heureux. Et il avait un sac, parce que quasi toute la totalité des perruques étaient chez Jules. Les boucles d'oreilles, les gants, beaucoup de choses étaient là-bas. Il avait fait un sac avec plein de choses dedans. Et il me l'a lancé comme ça au loin, je l'ai réceptionné. Et pour la petite
anecdote... Oh, genre par-dessus un mur, quoi.
Ah, mais oui. Ah non, mais on est, c'est vraiment, c'était la... Je sais pas ce que c'était, mais c'était la prohibition, quoi. Et je me souviens, pour la petite anecdote, Jules m'avait glissé à l'intérieur du sac une boîte de pâté avec écrit, je sais pas, de la part de Maryse et Bernard... en espérant que vous adorerez notre ferme et ses créations. Enfin, une blague un peu comme ça, mais c'était très très drôle. Avec une photo de lui et une perruque. Enfin, c'était...
C'est trop mignon.
Ah oui, non, mais hyper mignon. Et voilà, et donc ça m'a permis de continuer à créer, mais avec des perruques et des boucles d'oreilles.
Ah bah, 2 mois sans perruque, sans boucle d'oreille et faire du drag tous les 2 jours.
Ah bah, je mettais des turbans, ces trucs...
T'as dû trouver, ouais, certains stratagèmes, ouais.
Ça n'allait pas du tout. Mes boucles d'oreilles étaient faites en alu. Enfin, vraiment, il y a des trucs, mais...
Vraiment.
Ah oui.
Drag Race, dès la première saison, quand ça arrivait en France, vous avez voulu participer ou en duo, solo?
Complètement. Complètement. Et en plus, on l'attendait depuis tellement longtemps en France. Il y avait les autres pays autour de nous qui commençaient à l'avoir. Et on se disait, mais attends, mais et nous, en fait, il se passe quoi? Et donc, quand c'est arrivé, bien sûr qu'on a tout à fait postulé pour être dedans. On a postulé, mais sur un mode plus duo que solo. Donc oui, on a dû envoyer une vidéo solo de présentation, mais dedans, on ramenait toujours à notre duo. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, hein, qui a fait qu'on n'a pas été prise pour la saison 1. Et donc, on a repostulé pour la saison 2, mais de manière beaucoup plus scindée cette fois-ci, vraiment.
Ok.
Ouais.
Et quand on vous dit « let's go », vous participez, ça déclenche quoi chez toi? Est-ce que vous préparez Drag Race à deux, ou pour la première fois de votre vie, c'est chacune de son côté?
Oui. Alors, en fait, je crois que c'est surtout impossible de préparer ça, enfin, que deux queens qui participent à l'émission préparent ça ensemble. Parce que bah, de toute façon, on est dans la compétition de manière individuelle, donc il va falloir créer des choses pour chacun. Et on a tellement à faire pour soi qu'on ne peut même pas aider l'autre. On s'est toujours entraidé avec Pounani, donc on se serait absolument entraidé là aussi. Mais c'était pas possible, c'était impossible. Donc je sais qu'au début, on se montrait un peu nos croquis de ce qu'on voulait créer, etc., pour valider, pour donner des idées, etc., l'une et l'autre. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était plus, bah t'en es où? Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, ok, c'est top. Et vraiment, voilà, plus pour valider un peu les étapes où on en était, rien oublier non plus. Mais ouais, je pense que t'as raison aussi, ça a été un moyen d'émancipation.
Et t'as aimé faire ça, préparer des choses en solo pour une compétition?
Bah, moi je te l'ai dit, j'aime bien être seule, donc ça m'a pas dérangé. Après, ça m'a aussi mis face à mes marges de manœuvre, mes marges d'évolution. Notamment le fait que, bah, en fait, on peut pas faire tout toute seule. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Et après, ça m'a aussi beaucoup apporté, parce que du coup, j'ai appris énormément et très rapidement à faire des choses, etc., à maîtriser un peu le tissu, les machines, des outils. Ce qui est assez drôle, en fait, quand on crée une tenue pour Drag Race, enfin, pour du drag, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est que ça va pas être juste de la couture, ça va pas être juste du tissu. Comme pour le maquillage drag, en fait, on utilise des trucs et des astuces qu'on utilise, je pense, nulle part ailleurs. Et donc, je sais pas, pour que... Enfin, c'est peut-être le domaine dans lequel on utilise le plus de colle à chaud, quand même. Hein. La colle à chaud, à la base, c'est quand même un truc pour faire de l'artistique craft booking, quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, tu colles tes petites étiquettes, je sais pas quoi, avec de la colle à chaud. C'est pas vraiment pour les vêtements, mais ça fonctionne tellement bien. À foutre des bouts de tôle ou de tissu de machin pour... Enfin, vraiment, j'ai appris à la bidouille, un peu. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça permet de te grandir très rapidement, d'évoluer très, très rapidement. Ouais.
T'avais pas l'envie de demander, je sais pas, des petits coups de main aux gens que tu connaissais, potentiellement?
Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui demande rarement de l'aide aux gens. Et je sais que c'est ma petite faille. parce que je sais pas trop pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. J'ai peur un peu de déranger et d'être redevable, je crois, aussi de quelque chose, mais de pas pouvoir justement donner un truc en échange, en fait. Et en plus de ça, du coup, moi, je faisais un métier où je pouvais rien donner vraiment en échange. Tu vois, j'allais pas, je sais pas, quelqu'un allait. Bah, Jules, par exemple, est photographe en civil. Et il m'a fait, par exemple, des photos pour mon cabinet. Quand j'ai ouvert mon cabinet, il m'avait fait des photos de moi que je pouvais mettre sur Doctolib. Et en échange, je n'allais pas lui dire bah, « je te fais des séances de thérapie gratuites ». Parce que, bah, en fait, peut-être que je n'ai pas de problème. Et que, c'est très bizarre. Puis en plus, c'est compliqué de faire de la thérapie avec son meilleur ami quand même. Donc voilà, j'ai toujours eu du mal avec ça, avec le fait de demander de l'aide à quelqu'un. Mais en même temps, du coup, moi, comment est-ce que je peux t'aider? Donc je crois que c'est pour ça que je n'ai pas demandé d'aide à personne. Peut-être aussi qu'il y avait le côté challenge, de me dire, allez, en même temps, on va voir comment on s'en sort. Ouais, je pense qu'il y a un côté aussi très, très égo derrière tout ça, peut-être, hein, aussi, de voir comment on s'en sort tout seul. Et donc, je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer, ça. Parce que ça me permet de voir que, bah, non, finalement, c'est bien de demander de l'aide aux gens.
Hein. Parce que là, bon, on va un peu vite, mais comment s'est passé comment t'as vécu Drag Race et le tournage et l'émission de manière générale?
Je pourrais pas mettre les mots dessus parce que vraiment c'est une expérience unique de toute façon. Un tournage, dans la vie de tous les jours, voilà, on n'en a pas. Mais et puis pour une émission, pour la télé, avec une équipe aussi immense, etc., dans des locaux complètement disproportionnés, c'est immensissime, c'est des hangars, quoi. Et donc moi, tout ça, ça a été des stimuli très intenses et de manière très, très vive et d'un seul coup. Et en fait, moi, quand j'ai des stimuli, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'intéresser, j'ai envie de savoir, etc. Sauf que c'est pas du tout le sujet. Je crois que c'est compliqué d'être complètement dedans quand on est dans un état d'esprit comme ça, quoi. Et ça se ressent, moi, quand je regarde les images, je me dis, bah, attends, mais là, mais on voit bien que je suis pas du tout connecté au truc, quoi. Et c'est pas négatif, ce que je dis, hein. C'est vraiment, ça m'a énormément enrichi, aussi, de cette expérience, justement. Si j'ai à la revivre, bah, du coup, je la vivrai pas du tout de la même façon. Tu vois, le moment où je le vois le plus, et où je m'en souviens le plus, c'est quand je suis sur la scène pour lip-syncer avec Kitty Space. Et je lip-sync sur cette scène en regardant quasiment jamais le jury. Pourquoi ? Parce que il y a à côté du jury, ce qu'on ne voit pas, 40 personnes qui sont, qui sont techniciens, qui sont techniciens-techniciennes, qui sont, qui gèrent, qui sont de la prod, qui sont l'équipe technique, qui sont, enfin, bref, c'est immense. Ben, moi, je me dis, ben, en fait, il faut que je performe aussi pour eux, parce que c'est eux, mon public, et tous ces gens-là, en plus, me regardent. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, les gens qui vont regarder l'émission, ils ne voient pas tout ça. Et ils voient que le jury. Et du coup, si tu regardes pas le jury, c'est hyper bizarre. Et voilà, je suis pas là-dedans. Donc c'est là vraiment où je me suis rendu compte de ça.
Le fait de partir en première, le prorata, on va dire, tant de préparation et tant dans l'émission, n'y est pas. Et du coup, ouais. Et du coup, comment on vit un moment comme ça et comment toi, t'as vécu un moment comme celui-ci?
Alors, comme je me suis préparée seule, déjà, j'ai mis beaucoup moins d'argent dans la création de mes tenues. Donc, j'avais pas ce regret d'imaginer que j'allais partir et que, mince, tout cet argent dépensé pour rien, entre guillemets. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Mais le deuxième point sur le fait que j'ai aussi créé mes tenues seules, c'est que du coup, j'ai été face à des échecs. C'est-à-dire, bah tiens, bah, cette tenue, en fait, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire exactement. Tant pis, j'ai pas le temps, de toute façon, de la reprendre. Donc, elle sortira comme ça. Donc au final, je dirais que j'ai pas eu complètement de déception à pas voir certaines tenues sortir.
Parce que tu t'es rendu compte qu'il y en avait certaines qui étaient quand même pas abouties et pas au niveau?
Ouais, je pense. Après, je sais pas ce que ça aurait rendu à l'écran, et au final, peut-être que je me suis mis aussi la barre très très haute, puisque je les ai prises en photo toutes mes tenues, et en fait ça va. Mais sur le moment, je crois que voilà, ça m'a permis de me sortir d'une déception en me disant « Bon, en fait, c'est pas très grave. C'est pas comme si j'avais demandé
à des créateurs, ouais, à des gens de s'investir pour toi, d'investir du temps, etc. Exactement. Pour au final, ne pas leur rendre le travail qu'ils ont fourni
Absolument. J'ai quand même travaillé avec des personnes, hein, et notamment il y a une personne qui a créé l'entièreté de ma tenue sous l'océan, Vanessa Pinto. Et oui, pour elle, par contre, je me disais, bah mince, en fait, c'est la déception, elle verra pas la tenue à l'écran, etc. Mais je la connais, c'est une amie, et donc je sais comment elle réagit aussi. J'étais déçue aussi pour ma tenue d'élimination, je porte du patou. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est dommage pour eux, ça fait une image très... Mais en même temps, au moins, on aura vu la tenue. Mais bon, c'est pas cool de se dire, bah, c'est la tenue d'élimination. Bon, après, ils m'ont jamais fait de réflexion là-dessus, et c'est toujours la patou family. Mais voilà, donc il y avait ça aussi. Donc me faire éliminer, je pense que d'un côté, il n'y a pas trop de déception. Et en plus de ça, j'avais une part de moi qui pouvait s'y attendre, parce que je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais je suis quelqu'un qui se prépare psychologiquement aux choses. Ce qui est bien et parfois moins bien. Moins bien quand, par exemple, on me dit « Tiens, demain, on va faire une super sortie et il y aura machin, machine. » Et finalement, on ne fait pas cette sortie parce qu'il y a une annulation et on ne m'a pas prévenu suffisamment à l'avance pour que je puisse me préparer psychologiquement. Et bien là, je vais mettre du temps à me sortir de cette déception. Plus de temps que si je suis préparé. Et positive, donc, cette préparation, quand je me prépare à des choses négatives. Et que du coup, ces choses négatives arrivent parce que j'ai pris de l'avance sur comment gérer cette déception ou autre.
Ok, donc tu te fais une sorte de mindset pour te dire, bon, potentiellement, c'est des choses qui peuvent arriver. Ok.
Mais c'est, je pense, on m'avait demandé, je crois, et c'est un conseil que je pourrais donner aux futurs drags qui feront Drag Race. Vraiment, préparez-vous à sortir de l'émission parce que ça peut arriver. Première ou deuxième, ou peu importe.
Oui, et globalement, proportionnellement, ça arrive quand même à...
Oui, bah, 6 sur 10.
6 sur 10, ouais.
Donc c'est quand même pas mal, effectivement. Donc il faut vraiment s'y préparer. Du coup, je l'avais bien senti quand même, cette... Enfin, c'est pour ça que quand Nikki me dit que je suis sachet away, j'ai pas une émotion forte, contrairement à Pounani, par exemple. Parce que je sais que j'ai foiré le maxi challenge, le maxi défi. Voilà, je sais que j'ai pas été très très doué là-dessus, donc je sais que je lip-synquais et je sais que face à Kitty, mon lip-sync va pas être extraordinaire. Donc voilà. Mais cette préparation, ouais, je me la fais pour plein de choses et voilà. Mais j'ai déjà l'enterrement de mes parents qui est fait, hein, dans ma préparation. Parce que ça va arriver. Mais au moins, voilà, je serai prêt.
Si j'ai bien compris, si c'était à refaire, tu demanderais plus d'aide ?
Ouais, carrément. Mais c'est sûr.
Et est-ce que tu referais ?
Ah oui.
Participer à Drag Race ou à une franchise de Drag Race ou à un All Star ?
Ouais.
Un tout étoile ?
Au secours !
Mais quoi ?
Que des étoiles.
Un tout étoile.
Tout étoile. Bien sûr que je ferai un tout étoile parce que, comme je te disais, j'ai vécu l'expérience une première fois. Et puis, bon, je vais pas dire que c'était un échec, mais je vais dire que j'aurais aimé quand même aller évidemment un peu plus loin. Donc oui, absolument. Puis c'est une expérience qui est quand même vachement cool.
Le fait d'avoir pas eu le temps de proposer grand-chose dans Drag Race, pas avoir eu le temps de montrer réellement qui on était, qui t'étais. Est-ce que ça t'a donné envie de dire « Tiens, j'ai la possibilité de montrer quelque chose sur la tournée ?» Parce que Drag Race organise, suite à l'émission, une tournée avec tous les artistes de l'émission qui peuvent montrer toute l'étendue de leurs talents ou d'autres talents qui n'ont pas eu le temps de voir. Et donc, toi, il y avait vraiment cet objectif de montrer quelque chose de Rose que les gens n'avaient pas vu ou montrer qui est Rose ?
Ah ouais. Vraiment, je me suis dit, en fait, le public qui va venir, c'est le public principalement quand même qui a regardé l'émission, puisque c'est comme ça qu'ils nous ont découvertes, pour beaucoup. Et il faut que je montre à ce public-là, en fait, que c'est pas parce que je suis partie en première que je suis moins bonne que les autres. Voilà, c'était...
Moins bonne que par exemple.
Exactement, tout à fait.
T'imagines vraiment si la personne faisait ça.
Principalement elle. Et c'est réussi, parce qu'elle est si nulle. C'est pas vrai. On t'aime. Et donc, alors c'est très drôle parce que quand j'ai brainstormé avec moi-même pour imaginer ce que j'allais faire dans ce show, puisque vraiment on a carte blanche, hein, c'était sur un tableau. J'aime bien, je suis assez visuel et du coup j'avais acheté un tableau avec un marqueur.
Un Velleda.
Un Velleda. C'était, en vrai, c'était un peu mon rêve depuis longtemps.
Mais c'est génial.
Et je voulais le mettre dans mon cabinet quand je recevais des patients pour leur faire des schémas, tu sais, sur des mécanismes de
avec
pensée.
Avec des flèches, des carrés.
Ouais. Pour, même vous êtes dépressif, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la dépression. Juste ici, on a l'hypothalamus, enfin, des trucs, et je m'en suis jamais servi parce que je n'ai jamais accroché. Et puis que je ne suis pas assouée assez calée là-dessus, donc bon. Mais là, je me suis dit, tiens, pour Drag Race et faire mon mood board, un peu de mes tenues, je vais acheter ça. Donc je l'ai réutilisé pour la tournée. Et j'ai... Mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment très... Ok, donc je veux à la fois chanter, à la fois faire des imitations, mais je veux aussi danser pour montrer que je sais danser, je veux aussi faire de l'acting, je veux aussi faire du rire, je veux aussi faire... C'est un truc...
Une saison en 3 minutes.
Exactement, tous les maxi-défis. Mais au final, eh ben, j'ai réussi à compiler tout.
Exactement.
Puisque je danse pas, mais je devais danser. Mon numéro a été raccourci parce que ça doit durer un certain temps et c'est normal pour toutes. Mais à la base, j'avais pris des cours de danse avec notre fameux Claude, chorégraphe de star.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 Claude.
Claude Cormier.
Claude Cormier, bien sûr. Qu'on embrasse, il nous écoute aussi. Bon, c'est compliqué. Hein.
Très dur.
Donc non, j'ai réussi à compiler.
Je me suis mis du Wasabi dans la
vie. En plus... Oui, tu pleures.
Non, un peu de
attention,
rire quand même.
Attention, j'ai fini comme Segara. Oh là là.
C'est que tu vois Sabine dans l'œil qu'elle a fini comme ça.
Oui.
Donc oui, t'avais appris à danser. Étonnant.
Ah, Claude qui est assis avec eux. Oui, bah du coup, j'ai appris à danser avec Claude et j'étais un peu fière de montrer que je savais danser. Bon, finalement, la danse a été évincée de mon numéro, mais j'ai quand même gardé l'humour, l'acting, le chant.
L'imitation.
Voilà, quoi. Et l'imitation, ouais.
Mais l'imitation, c'est un truc que t'as bossé spécialement pour Drag Race ou c'est un truc que t'as tout le temps eu?
Tout le temps. En fait, je suis née en 8 ans. Oh non. Non, mais au collège, j'ai commencé à faire des imitations. Alors, j'imitais, je crois que je faisais Patricia Cass, Dalida, Jane Birkin, peut-être Amanda Lear, je suis pas sûre. Ouais, globalement, je crois que c'était à peu près tout.
Ok.
Et après, en fait, ça a un peu évolué. Quand on faisait nos vidéos avec Jules, j'ai sorti une vidéo où j'imite.
Ok.
Donc, c'est une compilation d'imitations.
D'accord.
Il y a un volume 1. Et ensuite, j'ai fait un volume 2 d'imitations, avec d'autres imitations. Ça, c'était au lycée. Et ensuite, j'ai été inclus dans un collectif d'imitateurs, le collectif des imitateurs du net, qui regroupait les imitateurs du net. Hein. Ils avaient besoin, en fait, d'une imitatrice. Et moi, je n'imitais que des femmes, parce que j'avais une voix un peu fluette, que j'ai toujours un peu. Et un peu. Et donc, voilà, je suis aussi Michael Jackson. Et donc voilà, voix désagréable. Après l'imitation, je l'ai un peu laissé de côté, mais j'ai toujours continué à imiter sous ma douche, à voir quelles nouvelles imitations je pouvais faire, etc. Quoi. À une époque, je faisais Cricket Rockwell.
Oh.
Ouais. Et c'était très. Et puis je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ouais. Vous êtes une compagnie. Voilà. C'est que des. Hey! Arrêtez! Cessez! Et vous riez! Bon, voilà.
Quel est dans la Quinterview, c'est incroyable.
C'est fou, hein? Alors, il y en a que je fais très mal.
Hein?
Il y en a que je fais très très mal, mais j'aime
bien.
Est-ce
que tu pourrais me faire une mauvaise imitation?
Ben, je peux.
Et j'essaie de deviner. Attends.
Ok.
Donc, vous aussi, chez vous, jouez avec moi à trouver quelle est la mauvaise imitation de Rose. Parce qu'on a pu montrer que Rose imitait bien. Maintenant, elle va nous faire ses plus mauvaises imitations et c'est à nous de deviner.
Comment ? T'as pris une salade ?
Est-ce que c'est Valérie Le Mercier ?
C'est un peu comme Valérie Le Mercier, mais c'est pas ça.
Attends.
Mais tu veux qu'on fasse le détail ?
Ah, Muriel Robin.
Oui. Tu vois comme je la tiens pas du tout. Pas du tout.
C'est incroyable.
Oh là là, c'est horrible.
Une autre, est-ce que t'en as une autre mauvaise comme
est-ce
ça?
Est-ce que j'en ai une autre mauvaise? Bah, mais alors, pour le coup, Pounani l'a fait encore plus mal que moi. Jacques Chirac.
Ah mais non, mais tu peux...
Ah non, je peux... Ah pardon, non, tu alors j'en fais une, d'accord, je te dis pas qui c'est, mais vraiment, je pense que vous l'aurez pas non plus chez vous, parce que cette personne est vraiment ne fait plus rien depuis... Pouf. Attends, c'est... Attends, je sais plus son nom. C'est terrible, si tu la trouves pas, en plus, c'est horrible. Ah! Ah mais arrêtez, on va vous présenter un spectacle. Arrête, Dino.
Non, je l'avais, c'était Charlet.
Quelque chose s'est levé et qui ne retombera plus.
Bah,
la gravitude.
Oui. Bah, c'est Golden Royal.
Oui, faut, ça pourrait être n'importe qui, non?
Effectivement.
Ça pourrait être Arlette Aguillée.
C'est n'importe qui fait un discours.
Complètement, parce qu'on sent qu'elle...
Et Jacques Chirac, tu me disais?
Écoutez. C'est parti un peu sur Jeanne Moreau sur la fin. Écoutez.
Oh, ça, non, cette partie voilà. Imitation.
Ouais, hein.
Voilà.
Je pense que personne ne va m'appeler pour
non, mais, alors,
un gig.
Ce que je veux dire, oui. C'est qu'on a fait quand même un disclaimer de tes plus mauvaises imitations, devinons ce que c'est. Parce qu'on en a les très très bonnes. Hein. Vanessa Paradis, elle est super.
Merci beaucoup.
Jane Birkin, elle est super.
Merci beaucoup.
Véronique Sanson, elle est super super.
Mais oui.
Donc voilà, on n'a plus rien à prouver à personne.
Et un jukebox, hein.
Hein?
Un jukebox.
Bah, oui, comme Marianne James, tu vois.
Marianne James, évidemment, Marianne James.
Donc vraiment.
Mais je suis très. Je peux continuer l'interview avec Marianne James, sans aucun problème.
C'est vrai que Marianne James est assez proche de toi.
Et oui. C'est vrai que c'est Marianne James qui est proche de moi et pas moi qui suis proche de Marianne
Bien
James.
Bien sûr, évidemment.
Ah non, mais
elle
oui,
s'est intimidée en permanence, elle y arrive assez peu.
Mais je l'ai rencontrée et elle m'a dit. Enfin, elle a vu la vidéo que j'avais postée sur notre compte Rosé Pounani où je l'imite. Et elle a dit, en fait, c'est complètement fou parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai cru que c'était moi et je me suis dit, mais c'est bizarre. Je pensais que tu lip-synquais, mais je n'ai jamais dit ça. C'est très étrange. Et.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ça m'a un peu troublée aussi, quoi, qu'elle me dise ça. Et. C'est tout. Peut-être que ma mère n'est pas ma mère. Tant que je me suis préparé à son enterrement pour rien.
Et quel a été l'accueil du public pour toi? Parce qu'ils ont. On va dire globalement, le public de Drag Race qui t'ont découvert dans l'émission. Bon, on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher. C'est très mal dit.
C'est vrai, bah oui.
Mais c'est très mal dit, mais dans le fond, c'est ça.
Ouais. Bah, je vais y répondre très rapidement, hein. C'était que positif. Vraiment. C'est-à-dire que, oh, bon, après, peut-être que les personnes qui pensaient des choses négatives ou ne me l'ont pas dit non plus. Hein. Mais vraiment, je... En fait, c'est drôle parce que quand on est éliminé, en premier ou après, je ne sais pas, hein, on a toujours cette impression d'avoir mal fait et du coup de c'est pas déplaire, mais décevoir.
Oui, d'avoir déçu.
Voilà, d'avoir déçu. Et puis, pour les gens qui ne nous connaissent pas, bah, d'avoir une image de, en fait, elle est nulle. Ou elle est pas douée, ou elle est moins douée, etc. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la plupart des gens sont pleins de compassion, mais pour la simple et bonne raison, je pense, qu'ils se disent surtout, moi, ce qu'elles font, je serais incapable de le faire.
Rose, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a déjà... Donc là, ça fait 2h34, hein, faut vous dire. Est-ce que... Ouais, il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de rajouter
Soyez le clown que vous avez envie d'être. Voilà. Et j'aimerais que cette phrase soit mise dans les pages roses là, du dictionnaire. Avec toutes les citations.
Avec...
Entre errare humanum
elle
est.
Elle était bonne, cette conne.
Avec elle était bonne, cette conne. Exactement.
Avant de nous quitter, c'est le moment des recommandations.
Alors en réalité, moi je suis très bande dessinée. Moi j'adore la bande dessinée, mais je suis difficile en bande dessinée. Et j'ai découvert, alors qu'il existe depuis longtemps, l'artiste Fab Caro, qui est incroyablement drôle. Et j'ai rarement ri en lisant des bandes dessinées, mais là franchement, j'ai commencé par la BD Formica. Et je me suis pliée de rire, vraiment. Donc j'ai recommandé deux artistes d'ailleurs en bande dessinée.
Fab Caro, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Zai 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 aussi.
Absolument.
Il a aussi écrit des livres. Il a aussi écrit des livres, dont un notamment qui s'appelle Le Discours. Et enfin, ouais, donc Fab Caro, il y a aussi les bandes dessinées Open Bar 1, Open
tout
Bar 2 et tout. Non, c'est super, super auteur et de romans. Et de bande dessinée.
Et c'est lui qui est scénariste de la dernière BD d'Astérix et Obélix.
Exactement.
Quand même. Mais donc Fab Caro, et il y a un autre artiste que j'aime beaucoup qui est là depuis bien, bien, bien longtemps, qui est Boulet.
Oui.
Tu vois qui.
Ouais. Oui, exactement. Alors j'avais le tout premier de ces livres.
Note.
Ouais, exactement.
En fait, j'ai encore des choses à te recommander. Un peu comme ça.
Oh là là, à la volée.
À la volée.
2h41, vraiment, on a vraiment pas envie que ce podcast se termine. Tu sais qu'on pourra continuer de discuter même sans micro. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et non, alors du coup, ces petits
livres... Je vais rien recommander de vraiment compliqué, mais tous les films de Jacques Demy. Franchement, enfin pas tous les films parce que je les ai pas tous vus, mais Les Parapluies de Cherbourg... Les Demoiselles de Rochefort. En fait, c'est des films dont on parle souvent et on est Les Demoiselles de Rochefort. Mais peu de personnes l'ont vu en réalité.
Ouais,
c'est drôle.
Et c'est.
En fait, au-delà du scénario qui est vraiment bateau, parce que c'était pas l'objet, je pense, de faire un scénario vraiment complexe, etc. Mais esthétiquement, c'est sublime. Et chaque couleur d'arrière-plan est en cohérence avec le gilet que porte le figurant qui est à droite et qui est un rappel de la petite table qui est en bas à gauche. C'est dingue quand on s'intéresse vraiment à l'esthétique. Et on y voit Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. Et c'est magnifique. Et puis, toutes les chansons qui sont dedans avec les musiques de Michel Legrand, c'est magnifique. Voilà, donc ça, je recommande. Et enfin, j'ai un livre, je ne sais pas si je le recommande, mais je le recommande plus à une population qui s'intéresse peut-être à l'histoire de Barbara. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre qui s'appelle « Il était un piano noir », qui est l'autobiographie de Barbara, qui est incomplète, mais qui permet de lever le voile un peu sur tous les mystères qu'il y a autour d'elle. Et Barbara, vraiment, c'est intéressant de pouvoir comprendre quel est l'artiste derrière, parce qu'on m'a toujours dit « mais t'aimes Barbara, mais du coup t'aimes les chansons dark ». Mais pas du tout, Barbara avait des chansons extrêmement joyeuses. Enfin, pas que ça, mais il y avait des chansons très joyeuses avec une musique dark.
Rose, c'est la fin de cette émission pour de vrai cette fois.
Oh.
Donc voilà, bon, c'est la fin de ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez le podcast. Je dirais même plus, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview qui sera moins longue. Ou pas. On ne sait pas. Vraiment, j'ai pas envie de mentir. Bye.
Allez, bye. I am the queen of
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.